Nous sommes le mardi 11 octobre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et à la une, la France au ralenti, faute d'essence. La pénurie s'étend et touche désormais un tiers des stations-service. Pas d'avancée sur le front des négociations. Grève reconduite par la CGT chez Total Energy. Point de situation complet dès le début de ce journal. Les missiles et les bombes ne feront pas plier les Ukrainiens. Message vidéo de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Pas intimidé par les frappes massives de Moscou hier sur l'ensemble du pays. Et puis le café, c'est bon pour la santé. Ça tombe bien, c'est l'heure d'en boire un petit. C'est confirmé par des chercheurs australiens. 2 à 3 tasses par jour diminuerait considérablement le risque de maladies cardiovasculaires.
Europe 1.
Diminue. Ils sont affirmatifs, nos chercheurs. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est parti pour une nouvelle journée de galère. Trouver une station-service ouverte sans passer par de longues heures d'attente tient presque de la quête du Graal. Ça reste difficile en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, même si les pompes sont en cours de réapprovisionnement. Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Le constat ce matin, c'est que livraison ou pas, la pénurie s'étend de plus en plus.
Oui, puisque les difficultés apparaissent désormais dans des régions jusqu'ici plutôt épargnées, notamment sur la façade atlantique, pas concernées par les blocages et qui, avec la proximité des ports, peut recevoir rapidement du carburant importé. Malgré tout, les difficultés ne concernent que 10% des stations. Et si vous habitez à Bordeaux, La Rochelle ou Rennes, eh bien tout est quasiment normal, d'où les messages du gouvernement, ne pas se ruer vers les pompes pour faire du stock. En revanche, si vous prenez la carte de France, là vous constatez que cela se complique autour de Marseille, Toulouse, Montpellier, Lyon, Tours, Clermont, et que cela s'améliore légèrement là où c'était le plus tendu. Selon le ministère de la Transition énergétique, les livraisons de carburant ont augmenté hier de 50% en Ile-de-France et de 35% dans les Hauts-de-France.
Voilà, le paradoxe de cette crise, en effet, Aurélien, c'est que les dépôts pétroliers sont pleins. C'est à la distribution que ça coince. Alors l'autre question, c'est le mouvement de grève en lui-même. Où en sont les négociations entre les syndicats et la direction?
Alors, à part une bataille de communiqués hier, rien n'a avancé chez Total Energy. La CGT a même annoncé une extension du mouvement à une quinzaine de stations-service sur le réseau autoroutier. La direction a fait part de sa volonté de dialogue, mais le syndicat parle de chantage à la suspension de la grève. Chez Esso ExxonMobil, la CGT et FO ont reconduit le mouvement. En revanche, CFDT et CFE-CGC ont signé les propositions de la direction.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, réunion d'urgence hier à Matignon. Elle a sorti une promesse. Le gouvernement continuera de prendre des mesures pour assurer l'approvisionnement des stations. On vient de l'entendre. Emmanuel Macron appelle les syndicats et la direction à faire preuve de responsabilité. Bloquer n'est pas une façon de négocier, dit-il.
Oui, le message, semble-t-il, n'est pas arrivé jusqu'aux salariés de Total. C'est ce que l'on va voir avec vous. Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Vous venez d'arriver devant le dépôt de Dunkerque, Lionel.
Oui, effectivement. Et cette grève a été votée à l'unanimité, encore une fois ce matin, par les salariés postés, comme à chaque prise de service. Vote à main levée à l'entrée du site. Reconduction donc du blocage de ce dépôt de carburant, l'un des plus importants de France, qui fournit une majeure partie des stations-service de la grande région Nord. Alors, aucun signe de fatigue après 15 jours de mouvement, assurent les grévistes. Au contraire, la publication hier des salaires par la direction du groupe, vécue ici comme une provocation, eh bien, elle ne fait que renforcer la détermination des salariés. C'est ce que me disait ce matin Vincent Westbecker, l'un des délégués CGT.
On essaye de désavouer le mouvement de grève au niveau de la population en disant bah voilà, c'est des parvenus, ils gagnent 5000 euros par mois, alors qu'on est dans le pétrole, on gagne pas trop mal notre vie, mais bon, on n'est pas des parvenus. Et non, le salaire moyen, le calcul est fait à peu près, c'est entre 3002, 3003. On le mérite, quoi, je veux dire, les bénéfices, qu'est-ce qui les fait rentrer dans la boutique? C'est bien les salariés de Total.
Un responsable syndical me disait hier que si la direction s'engageait à un salaire de 5000 euros, eh bien on lèverait le mouvement tout de suite. En attendant, encore une fois aujourd'hui, eh bien aucun camion ne sortira du dépôt de Dunkerque et le million de mètres cubes de carburant, un peu plus même, restera stocké dans la soixantaine de cuves qui occupe ici le site de l'ancienne raffinerie Total qui a été fermée il y a 11 ans.
Lionel Gougelot en direct du dépôt de Dunkerque pour Europe 1. En attendant que la situation se débloque, eh bien l'interdiction du remplissage des jerrycans va être généralisée à toute la France. D'autres départements rationnent le carburant. Dans le Var, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence, c'est 30 litres maximum par voiture.
Voilà, j'ajoute que les prix des carburants repartent à la hausse. Le diesel a gagné 10 centimes en une semaine. L'explication, c'est que pour remplir les stations-service, les pétroliers achètent le carburant à prix d'or à l'étranger et même en Russie, d'où l'on importe massivement du gazole raffiné depuis quelques jours, alors que Total a promis de s'en passer complètement d'ici la fin de l'année. Pour l'heure, il est 7h05 sur Europe 1. La guerre en Ukraine, justement, est-elle entrée dans une nouvelle phase? gaz après la pluie de missiles russes qui s'est abattue sur le pays hier. Le président Zelensky refuse de se laisser intimider. Écoutez.
L'Ukraine ne peut être intimidée. Elle ne peut être qu'unie. L'Ukraine ne peut être arrêtée. Elle est convaincue que les terroristes doivent être neutralisés.
On ne s'arrêtera pas, dit Volodymyr Zelensky, message vidéo qui s'adressait à la fois aux Russes et aux Occidentaux. Washington promet de fournir des systèmes antiaériens pour permettre l'interception des missiles russes. Moscou en a tiré 75 sur la seule journée d'hier et tente désormais d'entraîner la Biélorussie. Le président Loukachenko annonce le déploiement de troupes au nord, le long de sa frontière commune avec l'Ukraine. Une aide qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, selon Christine Dugoin-Clément. Elle est chercheuse associée à la Sorbonne.
Toute force est bonne à prendre dans l'immédiat puisque la Russie doit faire face à des avancées ukrainiennes qui font très très mal à ses positions qu'elle a bien du mal à tenir, et elle a aussi besoin de faire ce que l'on appelle du stop-loss, c'est-à-dire de limiter ses pertes, d'où notamment la mobilisation partielle. Or, la mobilisation partielle, ce sont des hommes qui, par nature, ne sont pas formés ou très peu formés. Pouvoir s'appuyer sur une armée, elle, formée, même si c'est en petit nombre, serait toujours un avantage. Et par ailleurs, s'il y avait une ouverture de front par la frontière biélorusse, eh bien cela participerait à diviser les forces ukrainiennes et pourrait tenter d'amoindrir leur percée, parce qu'ils seraient obligés de mener un front supplémentaire. Que ce soit aussi bien pour réagir que pour protéger les populations, les évacuer, tout ce genre de choses.
Christine Dugoin-Clément, chercheuse associée à l'université Paris-Sorbonne, elle répondait à Johan Tritz.
Voilà, ces bombardements d'hier sont-ils un tournant dans la guerre? On en parle avec le géopolitologue Cyril Bray, juste après le journal. Nous sommes nombreux le matin à enchaîner les café, ça c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Voilà qui devrait vous faire plaisir, le café. Eh bien, c'est pas mauvais pour la santé.
Eh bien non, apparemment, 8 Français sur 10 en consomment régulièrement. Des chercheurs australiens l'affirment, Yasmine Akatou, boire du café, eh bien ça réduit le risque d'accident cardiovasculaire.
Corsé, décaféiné ou même lyophilisé, boire 2 à 3 tasses de café par jour réduit de 20% le risque de développer une maladie cardiovasculaire. 450 000 buveurs d'Arabica ont été suivis pendant plus de 12 ans pour arriver à ces conclusions. Si le petit kawa est si bon pour notre santé, ce n'est pas grâce à la caféine, mais grâce aux autres composants de la boisson. Patrick Assiag est vice-président du syndicat national des cardiologues.
Alors, cette protection est corrélée à la présence de polyphénol, aux effets antioxydants et anti-inflammatoires sur les artères. Deuxièmement, à une réduction de 30% du risque de diabète. Troisièmement, à la protection du foie.
Des organes en bonne santé et une meilleure longévité. Boire du café réduit la probabilité de décès de près de 30%, disent les scientifiques. En revanche, l'étude précise pour les amoureux de la boisson, au-delà de 6 tasses, il peut y avoir des problèmes de rythme cardiaque. Il est recommandé de ne pas dépasser 4 expressos par jour.
Alors, c'est noté, Yasmine Akatou. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, l'étude a été publiée dans la revue scientifique European Journal of Preventive Cardiology.
Allez, un mot du football. Début de la phase retour de la Ligue des Champions. Le PSG reçoit Benfica ce soir.
Et Paris pourrait pratiquement assurer sa place en 8e de finale en cas de succès. Des Parisiens assez nerveux depuis quelques semaines. Il y a eu ce match tendu en championnat face à Reims le week-end dernier. Il y a aussi l'attitude de la star Kylian Mbappé. Son comportement interroge et pourrait même agacer certains de ses coéquipiers, Cyril de la Morinerie.
Oui, Kylian Mbappé traverse une période délicate. D'abord, la star est moins efficace. Par moments, l'attaquant parisien surjoué tente de faire la différence tout seul. Mais surtout, le Bondinois montre des signes de nervosité inhabituels. Samedi dernier, on l'a vu pousser un joueur adverse. En coulisses, Kylian Mbappé se montre en fait très critique sur son positionnement. Sur les réseaux sociaux, le joueur de 23 ans a écrit ce mot-clé évocateur « pivot gang ». L'ancien monégasque n'aime pas ce rôle de pivot. Il aimerait retrouver sa liberté sur le terrain comme en équipe de France. Mais son entraîneur au PSG, Christophe Galtier, bien conscient de la frustration de son joueur, relativise.
Kylian ne devait pas jouer à Reims, il a joué malade, fatigué, en plus dans un match qui a rapidement pas très bien tourné pour nous. Évidemment que j'échange beaucoup avec Kylian, il échange beaucoup avec moi, il échange beaucoup avec le staff, et qu'on est très sensible évidemment à ses remarques et à sa réflexion, parce qu'il est un joueur très important de l'équipe.
Après l'affaire du penalty gate qu'il a opposé à Neymar, Kylian Mbappé de nouveau au centre d'une polémique, s'agit-il d'un problème d'ego? La star va pouvoir répondre sur le terrain. En l'absence de Messi ce soir, Kylian Mbappé, auteur de 11 buts cette saison, aura les clés de l'attaque parisienne.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1, PSG dans cet ordre Benfica, c'est à 21h ce soir.
Dans Europe 1 Sport évidemment, et d'ailleurs ne manquez pas Europe 1 Sport puisque Jean-Michel Aulas, le patron d'Olympique Lyonnais, le président, reviendra sur son choix de Laurent Blanc au poste d'entraîneur. Il sera interviewé par Virginie Fulpin et Jacques Vendroux à partir de 20h. Merci beaucoup Christophe, 7h10 dans un instant sur Europe 1, le territoire ukrainien sous les bombes russes. Hier, on en parle avec le géopolitologue Cyril Bray.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Le territoire ukrainien, tout le territoire sous les bombes et les missiles russes. Hier, une quinzaine de villes ont été frappées. On recense à ce stade 11 morts, plus de 60 blessés. Alors comment interpréter cette démonstration de force russe? Bonjour Cyril Bray.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors, enseignant à Sciences Po, directeur du site EurasiaProspective.net. Cette opération militaire hier, c'est une opération importante hein, par ses dimensions. Comment vous l'interprétez, Cyril Bray? Est-ce que c'est un signe de fébrilité ou bien de remontée en intensité de la part des Russes dans ce conflit?
C'est d'abord une réplique, une riposte immédiate, brutale. Vous l'avez dit dans le sujet, plus de 70 missiles envoyés dans la profondeur du territoire ukrainien. C'est donc un message aux forces ukrainiennes. N'allez pas dynamiter nos ponts et cessez vos offensives. Donc c'est à la fois un aveu de faiblesse, l'incapacité des forces russes sur la ligne de front à stopper l'armée ukrainienne, et puis un signal avec la nomination d'un nouveau commandant en chef que les opérations des forces armées russes allaient changer de dimension et changer de nature.
Alors on va parler de lui, ce général Sourovikine effectivement, mais je me pose quand même quelques questions, Cyril Bray, parce que quand on écoute ce qu'a dit Vladimir Poutine hier dans son allocution à la mi-journée après les frappes, il dit deux choses. Il dit un, c'était une riposte à l'attentat du pont de Kerch survenu ce week-end, et il dit aussi que les objectifs des frappes étaient militaires ou bien des infrastructures télécom et d'énergie. Or, ce que l'on a vu sur les images, c'est que parmi les cibles, on a vu un jardin d'enfants, un centre commercial, des habitations, bref, des zones tout sauf militaires, vraiment des zones civiles. Et puis, il y a ce que disent les services de renseignement ukrainiens, à savoir que ces frappes, en réalité, les Russes les préparaient depuis le début du mois d'octobre, donc avant l'attentat du pont de Kerch. On en perd un peu son latin, on a du mal à interpréter finalement, Cyril Bray.
Oui. La perplexité vient de toutes ces sources et du discours que tient le Kremlin. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Malheureusement, les civils ukrainiens ne sont pas épargnés. Les civils ukrainiens sont même ciblés. C'est ce qui a donné lieu depuis plusieurs mois maintenant à des accusations de crimes de guerre. Parce que dans un conflit, les civils sont sacrés. Les civils sont tabous. On ne les cible pas, on ne les tue pas. On doit même tout faire pour les épargner. Ce qui est certain également, c'est que la réplique a été choisi pour être symétrique à ce que la Russie considère comme un attentat terroriste sur une infrastructure civile, le fameux pont de Kerch ou le pont de Crimée, Krimsky Most. Et donc, ce que veut montrer le Kremlin avec ses frappes massives, c'est une certaine symétrie. Vous touchez à nos infrastructures civiles, nous attaquons vos infrastructures civiles. Oui. Et le discours du président russe ne doit pas être surestimé de ce point de vue-là. Et on est en train donc de passer un cran où les cibles civiles de part et d'autre sont des cibles à part entière et des objectifs d'opérations militaires.
Oui. Emmanuel Macron disait hier soir, Cyril Bray, je pense que vous l'avez entendu, la guerre a changé de nature. Qu'est-ce qui, selon vous, fait dire cela au président de la République?
Eh bien, je l'interprète de deux façons. D'une part, l'aggravation du sort des civils, ukrainiens en profondeur. C'est-à-dire, ce ne sont plus seulement les civils sur la ligne de front ou dans les zones disputées qui peuvent être attaqués sur le territoire ukrainien. Les villes de l'ouest de l'Ukraine ne sont plus des sanctuaires. Bon, ça c'est un véritable changement, c'est l'aggravation du sort des civils et des infrastructures civiles. Et le deuxième plan, c'est que si les forces ukrainiennes considèrent que plus rien n'est sacré chez eux, même la vie des civils, même les infrastructures de traitement des eaux, de production de l'électricité, elles vont être tentées évidemment de faire elles-mêmes une guerre totale dès qu'elles en auront la possibilité à proximité du territoire russe. Donc pourquoi pas, mais c'est une hypothèse à ce stade, pourquoi pas frapper dans le territoire russe, y compris des objectifs civils, ce qui nous emmène dans une escalade terrible, d'une lutte à mort non plus entre deux forces armées pour la conquête et la maîtrise d'un territoire, mais une lutte à mort entre deux peuples.
Oui. Alors effectivement, vous avez raison. Il y a des infrastructures électriques qui ont été détruites hier. Vous avez des régions ukrainiennes entières qui sont sans courant. Alors que
ce qui est terrible, c'est on a l'impression que maintenant, on est engagé dans un conflit où le but n'est pas de défaire une armée, mais de réduire à néant un pays. Ses infrastructures et sa capacité à consommer, à aller à l'école, à être éclairé, à se chauffer, un peu comme si la menace était que l'Ukraine devienne un vaste champ de ruines et non plus du tout un pays habitable ou gouvernable.
Oui. Alors, vous avez évoqué effectivement la nomination d'un nouveau commandant à l'opération militaire spéciale, comme continue de l'appeler Vladimir Poutine. Il s'agit du général Sourovikin. Que sait-on de cet homme? Il a la réputation d'être un dur.
On sait effectivement qu'il a des méthodes brutales. On sait qu'en Syrie comme en Tchétchénie, la distinction entre le respect des civils et l'engagement des militaires et des combattants n'a pas de sens pour lui, que donc ça promet une opération militaire spéciale, comme on la nomme, une invasion en fait.
Il a dirigé les opérations russes en Syrie également. Hein.
Il a dirigé certaines opérations russes en Syrie et puis surtout, il a pris la ville stratégique en Ukraine de Lysychansk l'été dernier, et c'est ce qu'il a signalé tout particulièrement à l'attention du pouvoir russe. En fait, cette nomination aura un impact peut-être sur le terrain, et notamment pour les civils ukrainiens, mais a déjà un impact sur les cercles ultranationalistes russes, qui considèrent qu'enfin on va passer à la manière forte. Il faut bien voir que dans le débat interne des cercles de décision russes, on entend dire que l'opération n'a pas véritablement commencé, ce qui laisse présager une brutalité et des atrocités à venir.
Oui. Merci beaucoup Cyril Brett de votre expertise. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors, enseignant à Sciences Po, et on peut vous lire sur le site internet que vous animez, eurasiaprospective.net. Je vous souhaite une excellente journée. On reparlera de la guerre en Ukraine avec Vincent Hervoy tout à l'heure à 7h40. Et si les Russes avaient échoué à terroriser les Ukrainiens? C'est la question que se posera Vincent. Il est 7h20.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
L'édito écho à présent. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
On parlait de la guerre en Ukraine, ses conséquences diplomatiques. On voit beaucoup d'informations contradictoires circuler sur l'état de l'économie russe et l'efficacité des sanctions prises par les Occidentaux.
Oui, absolument. Il y a beaucoup de désinformations. Il y en a autant dans le domaine économique en réalité que dans le domaine militaire. Alors les pro-russes sur les réseaux sociaux s'appuient sur les statistiques de Rostat. Rostat, c'est l'Institut National Statistique Russe. C'est l'équivalent de l'INSEE, si vous voulez. Alors avant la guerre, Rostat n'avait pas une réputation de très grande technicité. L'Institut censure aujourd'hui certaines statistiques sur le commerce extérieur. Bon, en recoupant les informations, on peut penser que la récession en Russie sera de l'ordre de 4% cette année. L'inflation, elle est entre 10 et 20%. La consommation baissera de l'ordre de 10%. Certains secteurs, comme l'automobile, sont complètement à l'arrêt. Mais surtout, il faut comprendre deux choses, Dimitri. Première chose, ces sanctions, elles produisent de plus en plus d'effets dans le temps. Elles ont des effets cumulatifs. Certains secteurs, je parlais de l'automobile, sont arrêtés, il manque de pièces détachées. Ce sont des savoir-faire et des circuits de distribution qui se ferment et qui seront très difficiles à remettre en marche. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les sanctions sont sans cesse renforcées. Le Conseil européen, le 6 octobre, vient d'adopter un nouveau paquet de sanctions avec notamment une limitation de ce que les compagnies d'assurance européennes ont le droit d'assurer en matière de transport des hydrocarbures russes. Je vous rappelle d'ailleurs que d'ici février, nous allons vers un embargo pétrolier total.
Oui, l'effet général, c'est une déconnexion, décorrélation de l'économie russe du reste du monde. C'est un peu ça qu'on voit.
Absolument.
Est-ce que ces sanctions économiques ont des conséquences sur le plan militaire?
Alors c'est le sujet numéro un et c'est le but numéro un surtout. Les sanctions ne sont pas faites pour appauvrir les Russes. Elles sont faites pour combattre l'armée russe sans entrer militairement en guerre. On a quand même des raisons de penser que ça fonctionne plutôt bien. Il est interdit d'exporter vers la Russie de nombreux composants électroniques utilisés dans les armements ou dans l'aviation. On ne peut plus exporter certains produits chimiques. On n'a plus le droit d'exporter du charbon vers la Russie. Un think tank britannique vient d'étudier la composition des armes russes récupérées par les Ukrainiens. Il s'avère qu'elles contiennent toutes des composants issus d'entreprises occidentales, notamment d'entreprises allemandes, que la Russie doit remplacer aujourd'hui par des composants chinois quand la Chine accepte de les vendre, ou alors que l'armée doit trouver sur le marché noir. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué ces derniers jours, hein, la Russie utilise des drones iraniens, des obus nord-coréens. Ben, c'est faute de mieux à cause des sanctions.
Donc ça marche, les sanctions, Nicolas, mais on ne va pas se mentir, ça a aussi des effets négatifs sur nos économies.
Bien sûr, Dimitri, vous avez raison. Alors, c'est surtout vrai pour certains pays, l'Allemagne par exemple, hein, dont le modèle économique dépend vraiment du gaz russe. Pour la France, il faudrait quand même relativiser un peu les choses. Bon, déjà, les prix du gaz sur les marchés ont commencé à diminuer, c'est le cas des prix du pétrole aussi, mais surtout, nos problèmes actuels, nos pénuries d'essence, les queues démentes devant les stations-service ce matin, elles ne sont pas liées aux sanctions, hein, elles sont liées aux grèves chez Total Energy. Nos possibles pénuries d'électricité cet hiver ne sont pas liées aux sanctions, hein, elles sont liées à la politique de décroissance nucléaire de la France depuis 10 ans et à la mauvaise organisation d'EDF. La vérité quand même, Dimitri, c'est que 80% des problèmes actuels économiques et sociaux de la France sont certifiés d'origine française.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h23.
Europe Matin.
Le journal permanent Alban Le Prince.
Les files d'attente s'allongent devant les stations essence. La CGT de Total Energy n'a pas réussi à se mettre d'accord avec la direction hier et poursuit le mouvement aujourd'hui. Pour laisser du carburant à tout le monde, le remplissage de jerrycans va être interdit à partir d'aujourd'hui dans tout le pays par arrêté. Déluge de bombes hier sur l'Ukraine. Conséquence, réunion d'urgence du G7 cet après-midi. Dans la soirée, Joe Biden a promis à Volodymyr Zelensky des systèmes perfectionnés de défense antiaérienne. Et puis ne manquez pas Europe 1 Sport. Ce soir, quatrième journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit Benfica à 21h sans Lionel Messi, blessé au mollet.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Il y a 60 ans, jour pour jour, le 11 octobre 1962, l'Église catholique manifestait de manière spectaculaire son ouverture au monde moderne et à la culture contemporaine. C'est l'ouverture du Concile Vatican II. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vatican II va changer le visage de l'Église.
Oui, c'est une idée du pape Jean XXIII qui, 3 ans plus tôt, voulait aérer l'Église. Voici Jean XXIII, juste avant la cérémonie d'ouverture du Concile.
Le Concile contribue à établir la paix et à procurer une juste liberté culturelle et religieuse. Paix qui favorise la concorde entre les États.
Le monde est alors en pleine période de guerre froide et à cette époque, la sécularisation est de plus en plus importante. Les évêques ont reçu juste avant le Concile un questionnaire à remplir. Ils sont en majorité conservateurs, mais beaucoup ont compris qu'il faut agir comme cet évêque.
Un renouveau de l'Église, renouveau spirituel, renouveau liturgique.
Réaction de catholiques ce 11 octobre 1962.
Est-ce que ça vous paraît à vous très important ?
Moi, personnellement, peut-être pas, mais enfin, ça touche quand même énormément de monde, aussi bien les croyants que le reste. Et je trouve qu'au point de vue catholique, c'est important.
2000 évêques arrivent donc à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, pour l'ouverture du Concile.
Alors, le Concile devait être court. Il va finalement durer 3 ans, jusqu'en 1965, pendant lesquels 4 sessions vont se succéder.
Oui, 16 textes au total sont écrits. Le Concile Vatican II est un bouleversement. Les rites sont simplifiés pour permettre que davantage de fidèles y participent. Et la langue latine est presque totalement abandonnée. Sur place à Rome pour Europe numéro 1, Christian Bernadac.
Il est 8h30, les nuages ont disparu du ciel, le ciel est bleu, le soleil illumine la place Saint-Pierre. Sur cette place, maintenant 20 000 personnes. Les petites cloches que vous venez d'entendre donnent le signal à toutes les cloches de Rome, à toutes les cloches aussi des églises catholiques du monde.
Pour la première fois lors du Concile, l'Église dit qu'elle partage une forme d'humanisme avec le monde moderne. Et aussi, presque 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme est clairement condamné. 60 ans après, le Concile Vatican II est aujourd'hui encore un élément de référence au sein de l'Église.
Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Allez, dans 3 minutes à peine, un nouveau journal. Vous êtes en panne sèche, vous n'avez plus de carburant dans votre réservoir. Tiens, notre reporter Europe 1 Thibaut Hue a trouvé un camion citerne. Il se propose de le déposer chez vous, sympa. Bonne journée, bon réveil, bienvenue sur Europe 1, 7h27.
Europe Matin,
7h, 9h.
Dimitri Pavlenko.
Ce matin, les réservoirs se vident, les prix flambent, la grève chez Total Energy continue, comme la galère dans les stations-service. Où en sont les livraisons de carburant? Europe 1 est en direct d'un camion-citerne dans un instant. Jusqu'où peut aller le Kremlin? Réunion d'urgence du G7 après les bombardements russes hier sur toute l'Ukraine. Emmanuel Macron annonce l'entrée dans une nouvelle phase de la guerre. Et puis, viva au Benfica, les encouragements des supporters portugais avant leur rencontre ce soir contre le Paris Saint-Germain, l'équipe de Lisbonne joue sa qualification en Ligue des Champions. Le journal Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. C'est une quête qui tourne à l'obsession. Trouver du carburant via les applications, les réseaux sociaux, une entraide pour repérer la moindre station-service ouverte. Le gouvernement débloque les stocks stratégiques. Total Energy importe du carburant. Deux leviers qui permettent d'augmenter malgré tout les livraisons. Plus 50% en région parisienne, plus 35% dans les Hauts-de-France. D'ailleurs, vous les avez peut-être repérés sur la route, les camions-citernes. Bonjour Thibaut Hue.
Bonjour.
Thibaut, vous êtes à bord de l'un de ces engins pour Europe 1 ce matin. Votre camion roule dans Lyon, où il est attendu comme le Messie en station.
Oui, tout à fait. Un camion très attendu. Je suis assis à l'avant. On a rechargé la cuve et on transporte en ce moment 31 000 litres d'essence avec du gasoil et du sans-plomb, du carburant qui vient directement des stocks stratégiques de l'État, direction une grande surface de Troyes. Christophe, le chauffeur livreur de pétrole qui est juste derrière le volant à côté de moi, a pris l'habitude de ravitailler ses points de distribution complètement à sec. Et ce qui change pour vous, Christophe, dans votre journée de travail, c'est l'arrivée plus difficile dans les stations, hein.
Oui, effectivement, quand on arrive, il y a énormément de voitures qui attendent pour se servir. Donc, pour accéder, nous, à notre zone de livraison, c'est parfois un peu compliqué. Donc, il suffit d'aller voir les clients, leur expliquer qu'on a besoin d'accéder. Ils sont assez compréhensifs dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ils se poussent, ils essaient de nous laisser le passage de manière à pouvoir livrer assez rapidement.
Voilà, ce que me confiait Christophe, c'est que même pendant cette période de pénurie où il y a de la pression, où les journées sont plus longues, il garde son calme, il prend le temps de travailler comme d'habitude pour ne pas faire d'erreur pendant les livraisons.
Voilà, Thibaut en direct d'un camion citerne pour Europe 1 avec le précieux chargement. Donc ce matin, un tiers des stations-service françaises restent vides.
Oui, enfin manque au moins d'un carburant et ça ne va pas s'arranger. Aujourd'hui, la grève chez Total Energy est reconduite.
Une des pénuries qui vous oblige peut-être à troquer votre voiture pour le vélo ou les transports en commun. Option impossible pour les artisans. Eux, c'est simple, pas de carburant, pas de travail. Témoignage au micro de Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse.
Ça nous fout en l'air tout notre planning.
Delphine s'inquiète. Elle est la comptable d'une entreprise de menuiserie et sans carburant, leur chantier à l'autre bout de Toulouse est compromis. Alors même après sa journée de travail, elle cherche du diesel.
Quand on a su qu'il y en avait là, on s'est dépêché de venir. Le gérant a pris le camion et moi j'ai pris la commerciale. Là, si on peut en mettre, on va tenir 3 jours. Puis on verra au fur et à mesure. C'est stressant, ouais.
Nicolas lui a retardé au maximum son passage à la pompe, mais le carreleur est sur la réserve. Désormais, il doit faire le plein s'il veut continuer à travailler.
J'ai tiré jusqu'au bout, mais en pensant que ça allait se régler, mais c'est pas le cas. On s'appelle avec les conducteurs de travaux, eux qui sont souvent sur la route pour savoir s'ils tombent sur des stations où il y a du gasoil et puis on s'y en courant comme ça.
Jean-François lui pose des stores, il a 800 km à faire cette semaine, alors entre deux rendez-vous, dès qu'il voit une station, il s'arrête, mais tout ça lui prend beaucoup de temps.
Je dois remplir le complément de nos réservoirs si je veux faire toutes mes visites de la semaine, voilà. On est tenu par nos obligations professionnelles avec des opportunités de faire de l'essence quand on peut. Donc c'est très compliqué et ça annule beaucoup de rendez-vous au préalable pour le futur. Perte de temps, perte d'argent, il est temps que ça s'arrête.
Et si ça dure, il faudra peut-être s'adapter. Un plaquiste me disait qu'il réfléchissait à prendre le train pour aller travailler sur des petits chantiers dans le centre-ville le temps que la crise passe. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Et si vous habitez dans le Vaucluse, le Var ou les Alpes-Maritimes, notez que la vente de carburant est désormais limitée à 30 litres par client. Et même avec un demi-plein, ça va vous coûter cher en une semaine. Plus 11 centimes pour le litre de gasoil, plus 7 centimes pour le sans-plomb 95. 7h34 sur Europe 1. Il s'était préparé au pire. La fin d'une nuit blanche pour les habitants de Kiev qui redoutaient d'autres bombardements. Le silence a priori ce matin dans le ciel de la capitale, du répit après les 83 missiles tirés par Moscou hier. Une première étape, a prévenu le Kremlin. Alors, quelle est la prochaine? Question posée aux États du G7 dont fait partie la France. Réunion d'urgence à 14h. Jacques Serret, pour Emmanuel Macron, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre.
Oui, et c'est lui-même qui le dit. Hier après-midi, en déplacement en Mayenne, Emmanuel Macron a déploré, je cite, « un changement profond de la nature de cette guerre », comme si le conflit était entré dans une autre dimension, dans une nouvelle étape. Jusque dans l'entourage présidentiel, on confie que oui, le degré d'inquiétude est monté d'un cran. D'ailleurs, quelques heures à peine après la série de bombardements hier matin, le locataire de l'Élysée a décroché son téléphone, entretien en urgence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et dès son retour à Paris hier soir, le chef de l'État a convoqué ses plus proches conseillers diplomatiques et militaires pour une réunion au palais aux allures de conseil de défense. Mais au-delà des déclarations choc et de l'annonce d'une énième réunion au sommet, la marge de manœuvre de la France n'est pas plus importante qu'il y a 7 mois. Le 24 février dernier, juste après le début de l'envahissement russe en Ukraine, Emmanuel Macron parlait déjà de tournant dans l'histoire de l'Europe. À défaut de pouvoir échanger quelque chose, les mots et les formules choc ont toujours l'avantage de faire illusion pour masquer notre impuissance.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Alors la question ce matin, c'est quand l'exécutif dégainera-t-il l'article 49.3 d'ici la fin de la semaine, selon les informations d'Europe 1. En attendant, les débats se poursuivent autour du projet de loi de finances 2023.
Les députés s'attaquent aujourd'hui aux 3500 amendements et l'un d'eux a retenu notre attention ce matin sur Europe 1, un jeu de grattage pour financer la protection de la biodiversité. Alors ça existe déjà, vous savez, pour nos châteaux et nos églises, et c'est le même concept, hein, Louis Salé.
Oui, cela reprendrait exactement le même principe que la mission Patrimoine, avec un nouveau jeu à gratter spécial biodiversité. Et là aussi, les 12% habituellement prélevés par l'État sur le prix du ticket pourraient être reversés à une cause, à l'Office français de la biodiversité. Jean-Marc Zulesi est député Renaissance et président de la commission développement durable.
Vous êtes dans le parc de la Poudrerie à Saint-Chamas, par exemple, à côté de l'étang de Berre. Vous avez une volonté de préserver une espèce, il vous faut des moyens. Eh bien, on pourrait très bien imaginer, comme pour la mission patrimoine, avoir une mission biodiversité grâce à une plateforme. Et donc, à ce moment-là, on retient un certain nombre de projets. Et dans un second temps, grâce à ce loto de la biodiversité, ben vous venez financer toute ou partie du projet.
Mais pas sûr que cela attire des joueurs réguliers comme Olivier, rencontré à la sortie d'un tabac parisien.
L'idée est très bonne, effectivement, mais ça ciblera une certaine catégorie de joueurs, mais pas les gros joueurs comme moi. Acheter un jeu pour une cause, j'adhère pas, parce que je joue déjà beaucoup et c'est pour le gain, pas pour les bonnes œuvres, désolé.
Pour les joueurs occasionnels, donc plus sensible à l'environnement, le prix sera tout de même un facteur important. Celui du ticket du patrimoine s'élève, lui, à 15 euros.
Louis Salé, 7h37, bienvenido à Paris. Bienvenue à Paris avec mon excellent accent portugais.
Oui.
Message aux supporters attendus ce soir au Parc des Princes.
Mais qu'est-ce cette mélopée ?
L'hymne du Benfica, Dimitri, club idolâtré par bon nombre de Portugais. Les Aigles jouent contre les Parisiens. À 21h, match retour de la Ligue des Champions. Après la démonstration, on peut le dire, des Lisboètes, un partout la semaine dernière, le PSG secoué jouera d'ailleurs sans Messi ce soir.
Oui, de quoi donner le sourire aux Portugais, peut-être, qui pourront compter, eux, sur le soutien de la diaspora portugaise en France, très nombreuse.
Très, très importante, ouais. Démonstration dans ce club de futsal de Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne. Pour Europe 1, Chloé Lagadou a échangé quelques passes.
À l'intérieur du gymnase, sur le terrain, les joueurs portent fièrement du rouge et du noir pour l'entraînement, les couleurs du Benfica. Et dès le plus jeune âge, ici, on soutient l'équipe de Lisbonne. Lorenzo et Nils sont deux fervents supporters.
Depuis que je suis petit, je suis pour le Benfica parce que ma famille entière, on adore le Benfica.
Moi, j'habite à Paris, j'aime bien Paris, mais Benfica, franchement, j'adore ce club, j'aime beaucoup.
Une passion partagée avec l'équipe senior, doudou noir estampillé avec le blason du Benfica sur le dos. Georges, le responsable du club, sera ce soir évidemment au Parc des Princes pour voir son équipe préférée.
C'était impensable de ne pas pouvoir avoir une place. Je suis plus que grand fan. Moi, je suis né benfiquiste et j'espère mourir aussi. Et c'est vrai que nous, au Portugal, le Benfica, c'est plus qu'un club, c'est une institution.
Ici, chaque supporter a son pronostic pour le match, mais tous espèrent la victoire du Benfica face au Paris Saint-Germain, même si Estevao est conscient que la bataille sera rude.
Je sais que ça va être un match compliqué, surtout à Paris. La force du Benfica, je pense que c'est surtout les supporters. Même quand ça ne va pas, on les entend au stade, on y croit à la victoire. Et vive à Benfica.
Un reportage de Chloé Lagadou et un match à suivre, bien sûr, dans Europe 1 Sport.
Merci beaucoup, Roman. Ok, vous êtes pour le Benfica Lisbonne, c'est clair.
Oh, juste pour l'hymne, voilà. Allez.
Juste pour l'hymne, bon, très bien. Musicalement, alors.
Voilà, musicalement, pardon.
Allez, on vous retrouve tout à l'heure à 9h. Dans un instant, Vladimir Poutine a-t-il réussi à briser le moral des Ukrainiens? Vincent Hervouette va nous livrer son point de vue. Ce sera son édito international dans un instant.
Europe Matin, Dimitri.
Dimitri Pavlenko.
Dans un instant sur Europe 1, le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Dimitri. On appelle ça un olni.
Un
objet
olni.
Littéraire non identifié. Je vais essayer de vous expliquer.
Bon.
C'est un peu compliqué.
Bon courage. Allez, à tout de suite.
C'est beau.
Et le jeu vidéo de la semaine, Caroline
Speller,
bonjour.
Spanner, bonjour.
Le jeu de la semaine.
Overwatch 2.
Ah, Overwatch. Jeu de tir donc.
Tout à fait.
Mais avant cela, l'édito international sur Europe 1, Vincent Hervouet, bonjour.
Bonjour Dimitri.
Après les tirs de missiles russes sur les villes ukrainiennes hier, Emmanuel Macron a parlé d'un changement profond de la nature de la guerre.
Oui, la salve va frapper une quinzaine de villes sur l'ensemble du territoire ukrainien et officiellement les cibles étaient des centrales électriques ou les centres de communication, pas les jardins publics ou les immeubles de bureaux. À l'heure où reprend le travail, tous les Ukrainiens ont compris le message. C'est bien la population qui était visée, c'est l'arrière et pas le front militaire qui a essuyé la colère russe. C'est une punition collective. Au lendemain de l'attaque du pont de Crimée, Vladimir Poutine se venge de l'affront qu'il a subi. Il a définitivement renoncé donc au rêve qu'il caressait en début d'année, l'unité du monde russe. Les bombardements ont tué une douzaine de personnes. C'est peu comparé aux 15 000 civils touchés depuis février, estimation basse. Mais la destruction d'une douzaine d'infrastructures électriques laisse des régions entières sans courant. L'hiver arrive et le Kremlin veut évidemment que les Ukrainiens claquent des dents, que ce soit de peur ou de froid.
Ça n'a pas l'air de marcher.
Le blitz suscite un réflexe, résister en restant digne, en restant calme. Les gens réfugiés dans le métro hier chantaient en chœur, les employés municipaux qui nettoyaient les gravats, sitôt l'alerte passée. Et ce qu'on voit donc, ce n'est pas la peur des représailles, mais bien au contraire, la résilience d'un peuple, le courage de civils qui sont prêts à endurer beaucoup parce qu'ils ont un objectif en commun. En l'espace de quelques mois, la société ukrainienne s'est profondément militarisée. Dans son t-shirt kaki, Volodymyr Zelensky en est le symbole. Il avait annoncé début avril que l'Ukraine allait devenir un grand Israël. Il voulait dire que les problèmes de sécurité nationale allaient prendre le pas sur tous les autres pour les 10 ans à venir. Et l'armée était avant-guerre déjà l'institution la plus respectée, la seule peut-être. Et depuis le 24 février, elle est devenue intouchable. Des dizaines de milliers d'hommes se sont enrôlés. Chaque famille a l'un de ses membres sous les drapeaux. Et cette armée toute jeune, la deuxième d'Europe, continue de grandir et ses victoires sont la fierté de la nation.
Oui, quelque part, c'est beau, même si la guerre reste fondamentalement moche. Pourquoi on parle d'un changement profond de la nature de la guerre? C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est vrai que ça nous interpelle.
Sur le plan stratégique, les bombardements ne changent rien, mais désormais, on voit bien que tous les coups sont permis. Attaquer hors d'Ukraine, dans la Baltique, agiter la menace nucléaire, cibler les civils, recourir au terrorisme d'État, ça c'est l'escalade. Des deux côtés d'ailleurs. Un exemple, le camion qui a explosé sur le pont de Kerch a tué son chauffeur. Makir Youssoubov n'était pas un kamikaze. Il ignorait que sa cargaison était piégée. Il s'est attardé pour dormir sur une aire de repos et il aurait dû traverser le pont la veille, vendredi 7, et ainsi mourir le jour anniversaire de Vladimir Poutine. Ceux qui ont fait sauter le pont, en tout cas à l'aide d'un camion piégé, n'ont pas hésité à sacrifier cet innocent.
Signature Vincent Hervouet, merci beaucoup Vincent. 7h46.
Europe Matin.
Nicolas Caro, ce matin, donc, vous nous disiez un olni, un objet littéraire non identifié. C'est vrai que c'est un drôle de roman avec un drôle de titre.
À moins que ce soit le roman ultime, il est signé Anne Serre au Mercure de France. Il s'appelle Notre si chère vieille dame auteur. Accrochez-vous.
Alors, c'est l'histoire de quoi, ce livre?
Alors là, c'est l'histoire de rien. Enfin, c'est l'histoire d'un roman, écrit sans doute par cette si chère vieille dame auteur du titre. Une vieille femme sur le point de mourir. On lit son manuscrit, c'est une sorte de conte, mais ça va dans tous les sens et il y a des trous. Dans ces cas-là, on les comble avec une interview de l'auteur et puis il y a aussi un réalisateur venu tourner le documentaire, une script et tout un tas de personnages qui sont un peu cette si chère vieille dame auteur. On les croise, on croise aussi un narrateur, un vrai, il a un petit costume gris de narrateur comme il se doit. Ça ressemble à un conte donc, mais une sorte de conte idéal, presque caricatural, et puis ça vire vers autre chose. C'est beau en tout cas et drôle aussi, on sait pas bien où on est.
Oui, je suis pas sûr d'avoir tout compris Nicolas là.
C'est fait exprès, c'est une sorte de jeu, un roman à tiroir avec des pièges un peu partout, mais en fait, bon, Anne Serre, c'est une écrivaine reconnue, très armée littérairement, et elle nous démonte le mécanisme d'un roman. Et quand on le lit, on ne se perd pas, on comprend tout, même si ça va dans tous les sens. C'est un manège littéraire avec ce qu'il faut d'amusement en tout genre. C'est un peu tous les romans dans un seul, et en seulement 120 pages, des jeunes, des vieux, des dames, des filles qui sont peut-être que la même personne finalement. C'est une sorte d'hymne à l'imaginaire, un antidote à toutes ces histoires inspirées de faits réels, une ode à la fiction. Ce sont tous les bonbons fournis par l'imagination. Je sais pas, je me rends bien compte que c'est difficile à décrire ce roman, mais allez-y, faites-moi confiance, c'est une expérience, et d'ailleurs il fait partie de la sélection, de la première sélection concours.
Bon, si on se loupe après tout que 120 pages, ça passe assez vite. Notre si
vous
chère
vous
vieille dame.
Pas. Vous commencez, vous êtes pris immédiatement.
Bon. Je sens votre enthousiasme, un peu égaré, mais enthousiasme tout de même. Notre si chère vieille dame auteure, signée Anne Serre au Mercure de France. Tiens, je ne vous ai jamais demandé, Nicolas, vous jouez aux jeux vidéo entre deux bouquins ?
Je jouais, et un jour j'ai vous pris consciemment la décision d'arrêter, c'était trop de temps.
Ah c'est vrai, les jeux de tir, vous aimiez bien ?
Ouais,
parce que c'est ça, Caroline Speller. Overwatch, c'est un énorme succès critique pour le premier opus qui est sorti maintenant il y a 5-6 ans, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et ce fameux Overwatch vient du studio américain Blizzard. Alors, c'est un FPS, un jeu de tir à la première personne qui privilégie l'esprit d'équipe et la tactique. On intègre donc un groupe de guerriers avec chacun ses propres capacités et on affronte via Internet d'autres escouades dans des aires de combat. Alors, dit comme ça, ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait non, ce jeu est facile d'accès, fun, il n'y a pas d'effusion de sang, il y a un design cartoonesque et il se déroule dans notre monde, mais en 2077.
Le monde va changer une fois de plus. L'heure est venue de choisir ton camp.
Nous pouvons influer sur le cours des choses. Le monde a besoin que nous l'aidions plus que jamais.
Alors sa suite Overwatch 2, eh bien elle est plus belle, s'enrichit de nouveaux personnages et aussi de nouveaux lieux. Mais hormis le fait est que les équipes sont maintenant composées de 5 personnages, fait et avant c'était 6. C'est surtout pour dynamiser et rendre nerveux le combat. On parle plus d'une très belle mise à jour et il faudra attendre 2023 pour avoir vraiment un jeu complet.
Bon, j'ai Overwatch 1, est-ce que ça vaut le coup d'acheter Overwatch 2 ?
Alors oui, parce que le premier argument imparable, c'est qu'on ne peut plus jouer à Overwatch 1 parce qu'ils ont coupé les serveurs du jeu.
C'est brutal.
C'est brutal, mais bon, ça veut dire qu'on est obligé de jouer à Overwatch 2.
Donc les jeux se périment au bout d'un moment, vous ne pouvez plus jouer.
Là, vous ne pouvez plus lancer Overwatch 1. Bon, là, c'est fini. Mais surtout, il y a un autre argument, c'est que Blizzard a changé son modèle économique. Maintenant, fini le jeu à 60€, Overwatch 2 est ce qu'on appelle un free-to-play, un jeu gratuit à télécharger. Mais bon, évidemment, il y a un mais, parce que ce n'est pas totalement gratuit. Comme les jeux que vous connaissez sur smartphone ou tablette comme Candy Crush, il y a un système de micro-paiement. Ce sont des contenus payants qui permettent de personnaliser par exemple son personnage, on appelle ça des skins, de jouer plus vite ou de donner des avantages dans le jeu. Alors, Overwatch 2 reste quand même bien gratuit, mais la tentation de mettre la main au portefeuille arrive vite et ça va de 100€. J'allais dire 50, mais c'est carrément 100€.
Donc, qu'est-ce qu'on a pour 100€ ?
On a carrément un pack complet avec l'argent, le Battle Pass, des nouveaux personnages, totale quoi. Et donc si en tant que parent, ce système vous inquiète un petit peu, surtout n'oubliez pas d'activer le mot de passe pour les achats. Mais bon, en tout cas, Overwatch 2 reste diaboliquement quand même efficace.
Bon, j'attendrai le 3 puisque ils vont couper les serveurs du 2 au bout d'un moment.
Mais alors en tout cas, c'est disponible sur toutes les consoles et puis PC.
Ah, c'est un énorme blockbuster ça, Overwatch, ça je vous le garantis. Merci beaucoup Caroline Speller, merci Nicolas,
merci.
Vincent, à demain, 7h51 sur Europe 1.
Europe Matin.
L'édito politique arrive dans un instant, juste après le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince.
Les blocages doivent être levés sans délai, sinon le gouvernement interviendra. Déclaration à l'instant d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, car la situation patine. Les syndicats poursuivent la grève. Aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec les directions de Total Energy et Esso. A noter aussi l'interdiction dès aujourd'hui de remplir des jerrycans de carburant. Vif débat à l'Assemblée où les députés ont commencé hier l'examen du budget 2023. C'est dans ce contexte que l'hémicycle doit voter aujourd'hui en première lecture la réforme de l'assurance chômage. Et puis, réunion en urgence du G7 cet après-midi après la pluie de bombes qui s'est abattue sur l'Ukraine. Hier, Volodymyr Zelensky y participera.
Europe Matin.
7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro. Dimanche, Elisabeth Borne nous annonçait que la situation sur le front des pénuries de carburant allait rapidement s'améliorer. Bon, au lieu de cela, non seulement le mouvement de grève lancé par la CGT persiste, il a même tendance à s'étendre. À votre avis, Alexis, est-ce que le gouvernement a bien pris la mesure des choses ?
D'abord, je crois qu'il faut noter le caractère absolument surréaliste de la situation. Parce que franchement, une pénurie d'essence organisée par la CGT, il ne manquait plus que ça. On avait la guerre en Ukraine qui a fait exploser la facture du gaz. Un système européen de fixation des prix totalement absurde, qui aligne le tarif de l'électricité sur celui du gaz, parce que ça arrange les Allemands. Une petite moitié de nos centrales nucléaires en carafe. Parce que depuis 10 ans, pour faire plaisir aux Verts, on n'a pas consenti aux efforts d'entretien ni aux investissements nécessaires. Et donc, pour couronner le tout, la CGT qui, abusant éhontément de la situation, prend en otage la France entière afin d'obtenir de total des augmentations de salaire. Mais quand on y réfléchit, c'est ahurissant. Alors, face à ça, le pouvoir, il semble plutôt dépassé, parce que, Elisabeth Borne, vous l'avez vu, elle passe du déni à l'agitation désordonnée. Je ne sais pas si vous avez entendu Emmanuel Macron hier en Mayenne, mais c'était éloquent, hein. Courage Fillon, c'est pas nous, c'est Total, le gouvernement ne peut pas tout faire. On a déjà entendu ça. C'est un conflit privé. Mmh. Et puis cette conclusion, malgré tout, assez stupéfiante. Après tout, c'est ça le dialogue social. Vous avez bien entendu, c'est ça le dialogue social. Les files interminables aux stations-service, où un malheureux a d'ailleurs été poignardé, les artisans qui ne peuvent plus travailler, les Français qui ne peuvent plus aller au boulot, les transports scolaires qui ne peuvent plus rouler, demain peut-être les avions qui ne pourront plus s'envoler. C'est ça le dialogue social. Mais on rêve.
Mais tout de même, on ne peut pas interdire, Alexis, à des salariés de réclamer des augmentations de salaire, fût-ce par la grève.
Mais bien sûr que non. C'est d'ailleurs pas du tout la question. C'est vrai qu'avec 5 000 € par mois en moyenne, prime comprise, les salariés total ne sont sûrement pas les plus malheureux. Mais après tout, peu importe. Ils ont le droit de demander 10% d'augmentation et même de faire grève s'ils ne l'obtiennent pas. Mais là, on ne parle pas de ça. Les négociations salariales n'ont même pas commencé. Légalement, elles devaient avoir lieu en janvier et Total a proposé qu'elles soient avancées en octobre. Ce qui est scandaleux, ce n'est pas la grève, c'est la grève préventive. Mmh. À la CGT, c'est comme dans les westerns. On tire d'abord et on discute ensuite. Mais personne ne fait ça, nulle part. Même Laurent Berger, le patron de la CFDT, est indigné. Si on a un tant soit peu l'intérêt national, le sens d'intérêt national, mais qu'est-ce qu'on fait? On discute d'abord, et puis si ça échoue, si vraiment il n'y a pas d'autre solution, on fait grève.
Bon, le gouvernement, pour revenir à lui, Alexis, est-ce qu'il ne peut rien faire? Quelle option a-t-il?
Il pourrait faire quelque chose. Il pourrait prononcer la réquisition des personnels en grève.
Oui.
Cette réquisition, elle est de droit, nous dit la loi du 18 mars 2003. Alors je cite, « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité l'exige. » Difficile de dire que ce n'est pas le cas. C'est sur la base de cette loi que Sarkozy et Fillon sont intervenus en 2010 pour débloquer les stations-service et les raffineries. À l'époque, c'était le mouvement contre les retraites. Et puis ça a fonctionné. Alors bien sûr, il y a un risque politique. Bien sûr, ça tangra. Bien sûr, la gauche se déchaînera. Mais le risque de ne rien faire, le risque de baisser pavillon, de se coucher devant la CGT, de dire amen à tout, alors que nous entrons dans une période où les revendications salariales vont se déchaîner. Ce risque-là, qui le mesure? La lâcheté, vous savez, c'est rare qu'elle n'ait pas un coup.
Merci beaucoup Alexis Brézet. Du Figaro, je signale la une de votre journal consacrée ce matin à l'Ukraine quand Poutine se venge sur les villes ukrainiennes. Merci beaucoup Alexis.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Nous sommes le mardi 11 octobre, nous fêtons Saint-Firmin, l'un des premiers évêques d'Uzès dans le Gard au 6e siècle. Juste après votre journal à 8h, c'est Marc Ferracci, le député Renaissance, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, rapporteur du projet de loi de la réforme de l'assurance chômage qui sera à notre micro. On le fera réagir justement à ce que disait Alexis Brézet à l'instant. Pour l'heure, 7h56, dans un instant la météo. Nous sommes le mardi 11 octobre, bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez.
7h-9h, Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, la mise en garde d'Olivier Véran. Ce matin, prudent hier sur le sujet, le porte-parole du gouvernement menace désormais d'intervenir si les blocages des raffineries et dépôts pétroliers ne sont pas levés. Les salariés de Total Energy, eux, ne décolèrent pas. Nous serons dans un instant en ligne avec Lionel Gougelot, le correspondant d'Europe 1. Il est en direct du dépôt pétrolier de Dunkerque. La CGT, de son côté, veut élargir le mouvement au personnel des stations-service. Précision d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 dans un instant ce matin. Un tiers des stations sont toujours à sec. Réunion d'urgence à Matignon hier soir, mais aucune décision concrète. Et puis les sirènes ont à nouveau retenti à Kiev ce matin. Pas de bombardement russe pour le moment. Emmanuel Macron parle d'un nouveau cap franchi dans la guerre. G7 réuni exceptionnellement cet après-midi. Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les blocages doivent être levés sans délai, selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. L'exécutif menace, évoquant même des procédures de réquisition ou la réouverture des accès aux dépôts, alors que 30% des stations-service sont encore à sec ce matin et que le mouvement de grève est prolongé aujourd'hui. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des correspondants d'Europe 1 dans le Nord, en direct du dépôt de carburant de Dunkerque. Vous avez rencontré des grévistes déterminés et d'autant plus en colère que Total Energy a soufflé sur les braises ce week-end en publiant leur grille de salaire. Elle montre qu'ils touchent en moyenne 5000 euros avec intéressement, chiffre démenti par les grévistes.
Oui, effectivement. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est la première chose dont m'ont parlé les représentants des grévistes ce matin, juste après la reconduction du mouvement par un vote à main levée au changement de poste. Une publication des salaires effectivement vécue ici comme une véritable provocation, selon Vincent Lefebvre, l'un des délégués CGT.
Les personnes l'ont vraiment en travers de la gorge, quoi. Ça passe pas, ouais, non. Non, non. On voit bien sur les équipes de car quand on fait les relèves et les AG. Ça a même attisé, ça a mis du feu, on va dire, sur le site, parce que 5000 euros, on est loin du compte.
Alors, la CGT assure même avec une certaine ironie, hein, il faut bien le dire, que si Total prend l'engagement d'un salaire à 5000 euros, eh bien la grève sera levée immédiatement. En attendant, ici, les grévistes voient dans cette communication la volonté du groupe pétrolier de décrédibiliser tout simplement leur mouvement.
Parce que, bon, déjà, les gens sont un peu énervés sur le fait d'avoir un rationnement dans les stations. On entend autour de nous, quoi, quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est compliqué, on fait des heures d'attente. Mais en fin de compte, c'est le seul moyen qu'on a pour défendre nos droits.
Reste que ce représentant syndical reconnaît qu'il va bien falloir un moment ou un autre sortir de l'impasse. Mais pour l'heure, ici, à Dunkerque, aucune perspective positive.
Lionel Gougelot en direct du dépôt de carburant de Dunkerque.
J'ai une petite question pour Lionel.
Ben oui.
Lionel, vous avez du carburant encore dans votre voiture ?
Oui, bien sûr. Et l'intérêt que l'on a ici dans la région Nord, c'est que l'on peut aller faire le plein en Belgique. Alors évidemment, c'est un peu plus cher, mais les stations essence sont généralement plutôt bien approvisionnées.
Il y a moins de carburant aussi dans votre région aussi, parce que les Belges viennent en France. Les prix sont plus attractifs.
Ah bah voilà.
Merci beaucoup Lionel Gougelot.
Aurélien Fleureau nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
On vient de parler du salaire moyen des opérateurs de raffinerie qui fait débat depuis ce week-end, mais la CGT semble vouloir aussi embarquer dans son mouvement d'autres personnels.
Oui, parce qu'à partir de ce matin, une quinzaine de stations-service situées sur le réseau autoroutier seront fermées. Là, ce sont des salariés d'Argedis, une filiale de Total Energy, qui se mettent en grève. Et clairement, ce ne sont pas du tout les mêmes niveaux de salaire. Une manière pour la CGT de démontrer que le conflit pour obtenir des augmentations concerne aussi des salariés qui touchent le SMIC, alors que malgré la pression du gouvernement, les négociations sont au point mort. On l'a entendu chez Total Energy. La direction demande la fin des blocages avant de se mettre autour de la table. La CGT parle de chantage.
Quand on regarde la carte de la France ce matin, Aurélien, il n'y a pas d'amélioration significative.
Effectivement, puisque près de 4000 stations-service connaissent des difficultés d'approvisionnement, soit 30%. Ce chiffre n'a pas bougé depuis hier. En revanche, le manque de carburant se déplace, notamment vers la façade atlantique. Pourtant, pas concerné par les blocages, mais le surstockage de certains automobilistes a eu des conséquences. Et puis, c'est toujours très compliqué à proximité des raffineries qui ne livrent pas de carburant. Il faut encore être patient autour de Lyon, Marseille, Toulouse ou Strasbourg. Enfin, avec le déblocage de stocks stratégiques, les livraisons augmentent là où c'était le plus tendu, en particulier en région parisienne et dans les Hauts-de-France.
Merci beaucoup Aurélien Fleureau. Notez que pour éviter les pénuries, il est interdit ce matin partout en France de remplir des jerrycans ou des bidons d'essence. Le Var et les Alpes de Haute-Provence ont par ailleurs instauré hier une limitation de la vente de carburant à 30 litres par véhicule jusqu'à vendredi.
Voilà, il est 8h05. Laissez le temps au débat. Ne pas avoir recours au 49.3. L'appel solennel lancé hier par Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, en séance à l'Assemblée nationale.
Oui, alors que les députés examinaient en première lecture le projet de loi de finances du gouvernement, texte que les oppositions ont d'ores et déjà annoncé ne pas vouloir voter, l'exécutif envisage donc de dégainer le 49.3 qui permet une adoption du texte sans vote d'ici la fin de la semaine. Pourtant, dans dans l'hémicycle, Alexandre Chauveau, quasiment tout le monde fait comme si cette option n'était pas sur la table.
Oui, chacun fait montre de bonne volonté, mais tout le monde connaît l'issue inévitable pour le gouvernement en l'absence de majorité absolue. Gabriel Attal, ministre du Budget, se dit néanmoins prêt à dialoguer avec ceux qui veulent avancer.
Notre responsabilité collective, c'est de construire des compromis, mais de refuser le blocage. C'est de ne pas donner aux Français le spectacle de l'enlisement au moment où ils ont tant besoin que notre pays soit à la hauteur des enjeux. Soyons à la hauteur des enjeux.
Les différents groupes d'opposition jouent pour l'instant les bons élèves, tout en sachant que le 49-3 interviendra tôt ou tard. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée.
Nous essaierons tant bien que mal, durant les prochains jours de débat, si vous nous laissez débattre, de pallier les nombreuses carences de ce texte. Nous essaierons de l'améliorer, pour que soit rendu aux Français leur argent, pour que soit rendu aux Français leur pays. Notre groupe est prêt, prêt aujourd'hui à une opposition constructive, prêt demain à une alternance salvatrice.
Alors hier, les échanges ont été de plutôt bonne tenue, personne ne voulant à ce stade porter la responsabilité d'un blocage, un dialogue engagé mais respectueux et qui a son importance, car la virulence des débats pourrait accélérer le recours au 49-3 pour l'exécutif.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Dans l'actualité internationale, de nouveaux bombardements russes sur Zaporijja ce matin en Ukraine, alors qu'une réunion d'urgence du G7 est prévue à 14h, visioconférence à laquelle participera Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui accuse la Russie d'être un État terroriste et qui assure que l'Ukraine ne se laissera pas intimider. Hier, Emmanuel Macron a promis d'accroître le soutien de la France, notamment en matière militaire. Le chef de l'État qui parle d'un nouveau cap dans la guerre, avis que partage le géopolitologue Cyril Brett ce matin sur Europe 1.
Dans un conflit, les civils sont sacrés, les civils sont tabous, on ne les cible pas, on ne les tue pas, on doit même tout faire pour les épargner. Ce qui est certain également, c'est que la réplique a été choisi pour être symétrique à ce que la Russie considère comme un attentat terroriste sur une infrastructure civile, le fameux pont de Kerch ou le pont de Crimée, Krimsky Most. Et on est en train donc de passer un cran où les cibles civiles de part et d'autre sont des cibles à part entière et des objectifs d'opérations militaires.
Cyril Brett, géopolitologue, chercheur à l'Institut Jacques Delors, enseignant à Sciences Po, invité d'Europe 1 ce matin. Notez que la vice-ministre des Affaires étrangères ukrainienne assure que cette nuit, une quinzaine de bombes sont tombées sur la ville de Zaporijja. Il est 8h08. Petite question, Dimitri, aimez-vous les madeleines ?
Avec modération. Mais oui, c'est très bon.
Surtout celle de Proust. Oui. Je vous recommande d'ailleurs d'aller pour ça à la Bibliothèque nationale de France, la BNF, qui expose pour la première fois un trésor des manuscrits de la recherche du temps perdu. 350 pièces réunies sous le titre « La fabrique de l'œuvre ». Et on y voit à quel point Proust, qui nous a quittés il y a 100 ans, avait le souci du détail et avait retravaillé chacune des 2400 pages de ce monument littéraire. Marie Jiquel.
Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Le début légendaire d'À la recherche du temps perdu n'a pas jailli tel quel de l'esprit de Marcel Proust, que l'on sait malade. Il écrit allongé dans son lit, les murs de sa chambre tapissés de liège pour insonoriser l'espace.
On découvre que cette phrase, d'abord, elle est venue très tard.
Antoine Compagnon de l'Académie française, le commissaire de l'exposition.
Pendant très très longtemps, Proust ne savait pas où il allait mettre cette scène.
À travers ses manuscrits, annotés, raturés, découpés, recollés, par la main de Marcel Proust, on découvre par exemple que la fameuse Madeleine était plutôt rassis.
L'épisode de la Madeleine, il a été écrit 100 fois par Proust. C'était du pain rassis, puis c'est devenu une biscotte, puis enfin ça devient une Madeleine. La Madeleine, c'est beaucoup plus symbolique sur la coquille Saint-Jacques et ça nous renvoie à l'église. Mais tout ça a été élaboré pendant des années.
Beaucoup d'émotions aussi en découvrant des dessins dans un coin de page et le mot « fin » concluant une épopée littéraire inépuisable.
Ça donne envie de le relire. Marie Jiquel.
2400 pages.
Quand même,
bah faut oui,
avoir de
l'endurance.
Vous en
avez pour l'année, vous en avez pour un petit moment. Ça. Merci beaucoup Fanny Marceau. Dans un instant sur Europe 1, Marc Ferracci, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et l'invité d'Europe Matin. À tout de suite.
Europe 1.
8h13, bonjour Marc Ferracci.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, rapporteur du projet de loi visant à réformer une fois de plus l'assurance chômage, on va en parler, mais tout d'abord les stations-service, près d'une sur trois manquent d'un carburant ce matin, ça y est on change de braquet.
Bah écoutez,
on a besoin, à un moment ou à un autre, d'accélérer les choses, de faire en sorte qu'on trouve des solutions sur le terrain. Moi, j'ai une pensée pour tous les Français qui ont passé un week-end à galérer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour trouver une station ouverte, pour trouver une pompe avec de l'essence. On sait qu'à l'origine de tout ça, il y a un mouvement social, il y a aussi un contexte international qui a un petit peu perturbé les chaînes d'approvisionnement.
D'accord. Fondamentalement, pour l'explication, mais Marc Ferracci, quand Olivier Véran dit intervenir sur les blocages des raffineries, il faut comprendre quoi ? Réquisition ?
La question de la réquisition se pose si le dialogue social n'aboutit pas. Moi, je pense qu'il faut donner sa chance au dialogue social.
Avec 15 jours, le dialogue social, quand même.
Donner sa chance, vous avez raison, dans des délais relativement brefs, parce que maintenant, on ne peut plus attendre, parce que maintenant, la pression et la contrainte qui pèsent sur les Français et qui les pénalisent lourdement dans leur vie quotidienne se fait trop forte. Et donc, il faut que tous les outils soient sur la table. Moi, j'ai fait quelques négociations dans ma vie. Je pense que pour mener à bien une négociation, eh bien, il faut être capable d'actionner tous les leviers. Mmh. Et je pense que le levier de la réquisition peut en être un.
Est-ce qu'il n'y a pas une inertie de l'exécutif dans cette crise, quand on se refait un peu le film des derniers jours, avec finalement des prises de parole qui rétrospectivement peuvent sembler un petit peu légères, quand on dit oui c'est un conflit privé, oui mais enfin voilà, quand on a des gens qui ne peuvent plus aller travailler parce qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir, on est au-delà du conflit privé quand même, Marc Ferracci.
Sur cette question, au moment où il y avait un nombre relativement modeste de stations qui n'avaient pas d'essence, il aurait été peut-être possible de dire « attention, il faut engager tout de suite des mesures, des négociations, il faut mettre une énorme pression ». Si on avait fait ça, on aurait eu ce qui se passe aujourd'hui, mais on l'aurait eu peut-être de manière encore plus importante, c'est-à-dire des ruées vers les pompes, parce que les gens auraient eu de l'inquiétude. Et on sait que la ruée vers les pompes...
Ah ben on l'a eu ça, Marc Ferracci, vous en avez l'expérience.
Mais vous pouvez toujours avoir ça au carré, au cube, et puissance 10. Oui. Donc il faut quand même faire attention aux messages qu'on porte. Et je pense qu'au début de la crise, l'enjeu, c'était de ne pas trop inquiéter, précisément pour éviter ce genre de phénomène, ou en tout cas éviter qu'il ne soit trop massif.
Mais vous avez bien vu ce qui s'est passé. On a dit il n'y a pas de pénurie. Ah mais oui, mais on a prononcé le mot pénurie. Voilà.
Et bien peut-être que vous savez, la communication en temps de crise, c'est jamais une science exacte. Oui. Mais en l'occurrence, c'est aujourd'hui maintenant qu'il faut trouver des solutions.
Bon, il y a cette question de la réquisition qui va se poser, réquisition des personnels pour que les stations soient enfin livrées. Ensuite, il y a le versant négociation chez Total. Alors là, vous dites effectivement, là c'est la partie privée de la négociation, mais qu'est-ce que vous, Marc Ferracci, en tant que député, vous suggérez ? Est-ce que Total doit lâcher sur la question des salaires ? On sait que ça fait partie des discussions à l'Assemblée. La taxation sur les super-profits, ce genre de choses-là. Il y a quand même, parce que derrière, il y a des enjeux importants qui se jouent pour l'économie française qui, peut-être, dans quelques mois, sera en récession.
Vous avez raison d'évoquer ce contexte, ce débat qui a lieu autour de la question des super-profits. Cet été, quand la question s'est posée de taxer les super-profits, le gouvernement a une position assez claire.
Ouais, personnellement, je ne sais pas ce que c'est un super-profit.
Justement, c'est précisément ce que j'allais dire, c'est que c'est assez compliqué de trier les entreprises qui sont dans une position de faire des profits parce qu'il y a la crise et parce qu'au fond, l'environnement les avantage, et celles qui font des profits parce qu'elles font bien leur travail, parce qu'elles investissent, parce qu'elles innovent. Donc c'est ça la difficulté avec les super profits. Quand la question s'est posée, le gouvernement a été très clair, il a dit il faut que les énergéticiens, il faut que toutes ces entreprises qui concrètement aujourd'hui font des résultats exceptionnels parce que les prix de l'énergie augmentent, il faut qu'ils aient une démarche de partage de la valeur, c'est-à-dire d'augmentation des salaires.
Donc écoutez, Total doit augmenter les salaires de ses salariés des raffineries.
Il faut, je sais que les salariés des raffineries sont assez payés, ils sont aujourd'hui à des niveaux de salaire importants, et c'est vrai que quand les Français regardent...
Non mais ça ne veut rien dire, être assez payé,
exactement,
c'est ce que j'allais
vous dire. En relatif, vous pouvez avoir le sentiment qu'ils sont bien payés, mais ce sont des métiers qui peuvent aussi être pénibles. C'est une entreprise qui a la capacité d'augmenter les salaires, et donc la négociation aujourd'hui eh bien, doit concrétiser ce partage de la valeur et surtout déverrouiller une situation qui est insupportable pour les Français.
Oui, mais vous voyez ce qui va se passer derrière. Est-ce que c'est bien raisonnable de pousser les augmentations chez Total alors que, je vous l'ai dit, peut-être la récession arrive, que dans d'autres entreprises, on va entendre ce message-là en se disant, bah tiens, finalement, la grève, ça marche, le chantage, ça marche. Et puis, est-ce que l'État va faire la même chose avec les fonctionnaires ?
Je tire le fil de la pelote et c'est ça les questions qui se posent. Vous avez tout à fait raison. Quand vous dites la grève, ça marche, le chantage, ça marche, je ne suis pas d'accord avec vous.
Ah bah, si on obtient plus de 5% d'augmentation après 15 jours de blocage,
la grève,
ça marche.
C'est un droit protégé par la Constitution. Ce qui est problématique, ce sont des blocages, ce sont des démarches qui, concrètement, pénalisent tellement lourdement les citoyens dans leur vie quotidienne qu'ils en deviennent insupportables.
Avant d'avoir négocié. On est quand même là dans une grève avant négociation.
Mais vous savez, avant ou après, la question est la même. Le droit de grève, il existe. Maintenant, il ne faut pas en abuser. Et on est dans cette situation où il faut trouver une solution par le dialogue social. Mais moi, je ne dirais jamais qu'une grève est un chantage. Il faut être très clair.
Marc Ferracci, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, entre les questions au gouvernement et les discussions sur le budget, c'est le gros dossier de la semaine, il va y avoir un vote solennel sur le texte dont vous êtes le rapporteur, Marc Ferracci. Vote solennel, ça veut dire que tout le monde sait que le vote va avoir lieu à telle heure, donc normalement l'hémicycle est plein à ce moment-là. Sur un projet de loi qui intéresse en plus au premier chef les Français, puisqu'il s'agit de la réforme de l'assurance chômage. Alors le fond de l'affaire, Marc Ferracci, c'est que la majorité relative, la majorité du président, souhaite pouvoir faire varier les règles du chômage en fonction de la conjoncture. Il va y avoir des discussions avec les partenaires sociaux sur les paramètres de, de cette modulation. Qu'est-ce que vous, Marc Ferracci, souhaitez pour cette réforme? Qu'est-ce que vous défendez au nom de la majorité présidentielle?
Alors, vous avez raison, c'est une réforme qui va donner la possibilité au gouvernement de faire. C'est un élément important parce que le projet de loi qui va être voté, je l'espère, cet après-midi, eh bien, ne comporte pas le contenu de la réforme lui-même. C'est simplement une possibilité. L'idée est assez simple. L'idée, c'est que quand on est aujourd'hui dans une situation où il y a des pénuries de recrutement sur tous les territoires, que ces pénuries de recrutement non seulement empêchent de créer des emplois, mais pénalisent les Français dans leur vie quotidienne. Quand vous n'avez pas de chauffeur pour les cars scolaires, c'est les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Quand vous n'avez pas d'assistant pour les crèches, et vous avez besoin de trouver des modes de garde alternatifs.
Ah, mais sous-entendu, si on n'a pas de chauffeur, si on n'a pas de personnes dans les crèches, c'est parce que les gens sont au chômage et qu'ils ne veulent pas travailler. C'est
non,
ça, Marc Ferracci,
justement, il y a plusieurs raisons. Il y a le sujet de l'attractivité des métiers, il y a le sujet de la formation, il y a le sujet de ce qu'on appelle les freins périphériques, la mobilité, le logement, la garde d'enfants. Mais il y a aussi, et j'insiste, il y a aussi la question de l'assurance chômage. Il y a aussi la question de l'assurance chômage. Et la philosophie de la réforme, c'est de dire que quand on est dans une situation où le marché du travail va bien, il faut que les règles soient plus incitatives au retour à l'emploi. Il faut qu'elles soient plus protectrices quand la situation se dégrade.
Oui, mais c'est dans le détail, vous faites varier la prestation, vous faites varier la durée d'indemnisation, la durée de cotisation. À quoi vous personnellement, vous pensez?
Alors, très concrètement, il y a des pistes qui sont aujourd'hui sur la table. Il y en a une qui a été écartée, c'est de faire varier le montant de l'indemnisation. Le ministre l'a dit. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas toucher au montant de l'indemnisation? Parce qu'on est dans une situation d'inflation, on est dans une situation où on souhaite protéger le pouvoir d'achat des Français. Il serait malvenu de toucher au montant de l'indemnisation. En revanche, la durée d'indemnisation, le seuil d'éligibilité, c'est-à-dire combien de mois vous avez besoin de travailler pour vous ouvrir un droit à l'assurance chômage. Aujourd'hui, vous avez besoin de travailler 6 mois dans les 24 derniers. Ça, ce sont des pistes qui sont sur la table. La durée, c'est important parce que quand on est aujourd'hui dans une situation où il y a des opportunités d'embauche, eh bien, assez naturellement, les durées de chômage ont tendance à se raccourcir. Donc il est assez légitime de raccourcir la durée d'indemnisation.
Et quels critères déclencheraient le passage d'une indemnisation, quels critères pour la modulation, justement?
Quels critères pour les changements de règles? Là aussi, il y a plusieurs options. Moi, je recommande de prendre quelque chose de simple, de transparent, d'incontestable. Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, le taux de chômage tel qu'il est calculé partout ailleurs dans le monde, c'est un bon critère. On sait que quand le chômage augmente, d'abord, il augmente de manière assez homogène sur l'ensemble du territoire, même s'il peut y avoir des exceptions. Et puis surtout, quand le taux de chômage augmente, les durées de chômage ont tendance à augmenter. Vous avez plus de gens qui cherchent et vous avez moins de jobs à pourvoir. Et donc, dans ce contexte, c'est assez logique de faire varier notamment la durée d'indemnisation.
Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite ce concept de concertation, Marc Ferracci? Parce que la concertation, dans le langage du ministère du Travail, ça veut dire discussion avec les syndicats, les partenaires sociaux, mais sans négociation, ce n'est pas conclusif. C'est-à-dire, on émet des recommandations, mais ensuite le gouvernement dispose et prendra les décisions qu'il a à prendre, Marc Ferracci. À quoi bon ce cinéma, quelque part?
Vous savez, la question de la négociation, elle s'est posée. On a envisagé d'envoyer aux partenaires sociaux un document leur proposant de négocier sur la modulation des règles et répondre aux questions que vous venez de poser. Les deux principales organisations, que sont la CFDT et le MEDEF, ont publiquement affirmé qu'un accord sur la modulation des règles était impossible, donc que la négociation ne pourrait pas aboutir.
Peut-être
c'est ça,
parce que le cadre que vous fixez à l'avance depuis maintenant 4 ans fait que de toute manière une entente n'est pas possible et ce qui vous redonne la main systématiquement
au gouvernement. Le cadre c'est celui d'un mandat politique qui a été donné au président de la République. Cette question de la modulation, elle est dans le programme du président de la République. Donc c'est là-dessus qu'on est fondé, qu'on est légitime à demander aux personnes de négocier. Ils ne souhaitent pas négocier, dont acte. Donc on engage une concertation. Et pour rebondir sur ce que vous dites, une concertation, ça n'est pas forcément des décisions unilatérales qui sont annoncées aux gens. Une concertation, c'est des options qui sont mises sur la table. Est-ce que vous voulez faire varier avec le taux de chômage? Est-ce que vous voulez faire varier la durée? Est-ce que vous voulez faire varier et avec quel seuil? Et ensuite, les gens émettent leurs recommandations, émettent leurs suggestions. Moi, j'en ai mené des concertations quand je travaillais avant au ministère du Travail. Oui. Je peux vous dire qu'on ne sort pas de la concertation toujours avec le même document. document que celui qu'on avait en
Non, mais temps. J'entends bien Marc Ferracci, mais vous dites tout à l'heure à propos des négociations chez Total, le gouvernement n'a pas à mettre son nez là-dedans, c'est une affaire privée. Historiquement, je rappelle quand même que la convention de l'UNEDIC, la convention assurance chômage, c'est les partenaires sociaux qui la discutent. Or, on voit que depuis 4 ans maintenant, c'est terminé. C'est le gouvernement qui a la main totalement. Et on a ce simulacre, pardonnez-moi de le dire, mais de discussion avec les partenaires sociaux.
Non, ce n'est pas un simulacre. Je ne retiens absolument
pas ce mot.
En tout
cas, c'est ce que eux disent. Hein. C'est le sentiment qu'ils
ont. Je vais vous dire quelque chose d'assez simple. À un moment, c'est l'État qui a la responsabilité politique du chômage, de la précarité de l'emploi, de la prolifération des contrats courts. C'est à lui qu'on fait grief de la progression du chômage. Je pense qu'il est légitime, c'était le sens du programme du président de la République en 2017, de donner à l'État plus de leviers pour agir sur le chômage, la précarité, les contrats courts. Et c'est ce que la première réforme de l'assurance chômage a cherché à faire. Il est logique que dans cet esprit de responsabilité politique, l'État reprenne un petit peu la main sur l'assurance chômage. Et j'indique, et j'en termine, que l'État a encore un rôle qui est plus limité qu'il ne l'est dans d'autres pays. Donc à un moment ou à un autre, les partenaires sociaux ont toujours un rôle.
Oui.
Ils ont un rôle. Ils vont continuer de l'avoir et ils souhaitent d'ailleurs discuter de ce rôle dans le cadre d'une négociation sur la gouvernance qui va débuter dans les prochaines semaines.
Bon, on va aussi parler des retraites aujourd'hui, début de la concertation. Alors justement, on continue à parler du chômage puisque l'un des enjeux de cette réforme des retraites, c'est le chômage des seniors. Je donne les chiffres, hein, ils sont quand même pas très très bons. On voit que pour la tranche 55-64 ans, vous avez 56% des gens qui sont au chômage. C'est le taux d'emploi l'un des plus faibles qu'on ait en Europe. 56% de taux d'emploi pour les 55-64 ans, vous n'êtes pas d'accord ?
Alors, c'est juste de pas mélanger taux de chômage et taux d'emploi. Il y a 56% de taux d'emploi, c'est la proportion des gens qui travaillent. Effectivement, c'est un taux plus faible qu'ailleurs.
Ça veut dire qu'il y a quand même 44%, près de la moitié, qui n'ont pas un emploi et donc qui ne cotisent pas. Et on voit que ce taux d'emploi, il s'effondre passé 60 ans. À titre de comparaison, on est à 77% quand même en Suède. La question qui se pose, c'est comment faire admettre aux gens qu'il faudra travailler plus longtemps pour partir plus tard si c'est pour être au chômage comme cela, plus longtemps.
Alors, d'abord, vous avez tout à fait raison de parler du taux d'emploi plutôt que du taux de chômage parce que c'est l'indicateur important. Quelle est la proportion des gens qui travaillent ? Ce qu'on a vu avec les réformes précédentes, on peut remonter jusqu'en 81 quand on a introduit la retraite à 60 ans, c'est que le taux d'emploi des seniors, plus de 55 ans on va dire, est très sensible aux paramètres de la retraite. Très sensible à l'âge légal de départ, très sensible à la durée de cotisation. Il a plongé ce taux d'emploi après 81. Il a remonté avec les réformes successives, la réforme Fillon, la réforme Touraine. Et donc, c'est la première des raisons pour lesquelles on veut faire cette réforme et on veut toucher d'une manière ou d'une autre à l'âge de départ dans le projet présidentiel. C'est qu'on sait que ça aura un effet sur le taux d'emploi. Et vous l'avez bien indiqué, le taux d'emploi des seniors en France, il est plus faible qu'ailleurs. On pourrait aussi faire le même constat sur le taux d'emploi des jeunes, mais c'est un autre sujet. On a besoin de le faire remonter, on a besoin de travailler plus nombreux et plus longtemps afin de créer plus de richesses. Et pour répondre à votre question, on a besoin de cela, pas simplement pour équilibrer notre système de retraite, même si le Conseil d'orientation des retraites a dit qu'il allait être déficitaire et assez lourdement déficitaire dans les 25 prochaines années. On a besoin de ça pour accroître la masse salariale, pour accroître la base des recettes sociales, ça concerne l'assurance maladie aussi bien, mais aussi des recettes fiscales. Ça permettra de financer des investissements dans l'éducation, dans la santé, dans la transition écologique.
J'entends bien, mais il va falloir convaincre les gens que ça va fonctionner, parce que la logique, c'est que ceux qui sont dans l'emploi travailleront plus longtemps, ceux qui sont déjà au chômage resteront au chômage plus longtemps avant de passer à la retraite.
Alors, vous avez raison, il y a un gros enjeu, c'est d'ailleurs le sens de la discussion qui commence aujourd'hui entre le ministre du Travail et les partenaires sociaux. Il y a un gros enjeu sur l'emploi des seniors. Il y a des mesures à prendre pour favoriser l'emploi des seniors, pour éviter que les seniors restent trop longtemps au chômage. Je vous en donne une seule, parce qu'elle est importante, et moi je l'ai portée ces derniers jours, ces dernières semaines. Quand vous arrivez à 50 ou 55 ans au chômage, la difficulté, c'est que vous avez souvent un bon niveau de salaire, vous êtes arrivé en haut des grilles salariales, et on vous propose des offres qui vous obligent à avoir une baisse de salaire, parce que les offres ne sont pas calibrées pour ça. Moi, je pousse, et je pense que le ministre du Travail va dans cette direction, il l'a annoncé, je pousse pour une mesure qui permettrait de compenser en prenant une partie de vos droits à l'assurance chômage, cette décote salariale. C'est-à-dire, vous donnez un petit peu d'argent aux personnes au-delà d'un certain âge, qui acceptent de reprendre un job.
Oui.
Pourquoi ? Parce que ça permet de résoudre ce problème.
Bon, il faudra venir nous en reparler parce qu'il y a beaucoup de choses sur la table. J'ai une dernière question pour vous. Le recours au 49-3 dans le cadre des débats sur le budget, en tant que parlementaire, en tant que député, vous avez entendu votre collègue Éric Coquerel hier dire non, ne faites pas ça, monsieur, mesdames et messieurs du gouvernement. En tant que député, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'ai aucun état d'âme. Aucun état d'âme, d'abord parce que c'est un outil qui figure dans notre constitution, dans nos institutions. Aucun état d'âme parce qu'on est dans un contexte de crise, d'incertitude profonde dans lequel il faut continuer à agir. Vous savez, moi j'ai l'image du bateau qui est dans la tempête. Quand vous arrêtez le moteur dans la tempête, d'abord vous avez le mal de mer, et ensuite vous prenez une vague et vous chavirez. Il faut continuer à agir. Si on doit en passer par le 49-3, on le fera. Et pour terminer avec M. Coquerel, j'indique que la France Insoumise et la NUPES a hier déposé une motion de rejet. C'est-à-dire, une motion de rejet, ça veut dire qu'on rejette le budget avant même d'avoir à en débattre. C'est un petit peu contradictoire avec l'appel qu'il fait.
J'ai une petite idée de ce qu'il y a dedans quand même. Hein.
Avec l'appel qu'il fait de ne pas utiliser le 49-3. Oui. À un moment, soit on débat, soit on débat pas, mais on peut pas refuser le 49-3 et déposer une motion de rejet. C'est un peu contradictoire.
Merci beaucoup Marc Ferracci d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Il faudra venir nous parler des retraites. On aura l'occasion. 8h29 sur Europe 1. Dans un instant, Yann Moix arrive. Emmanuel Ducrot, à tout de suite.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Europe 8h31, le journal permanent sur Christophe Lamar.
Le gouvernement prêt à utiliser la force pour lever les piquets de grève qui bloquent les dépôts et les raffineries. Avertissement du porte-parole Olivier Véran alors que la grève est reconduite chez Total Energy et Esso ExxonMobil. L'exécutif déterminé à pousser les négociations entre syndicats et direction pour éviter l'enlisement. 30% des stations-service sont à sec sur au moins un type de carburant. La situation reste très variable d'une région à l'autre, mais la crainte de la pénurie pousse les automobilistes à faire du stock. L'interdiction du remplissage des jerrycans est étendue à toute la France. Dans le sud, on est passé aux restrictions. Pas plus de 30 litres par personne et par véhicule dans le Var, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. Après les Nations Unies hier soir, c'est au tour du G7 de se réunir en urgence après les bombardements massifs sur l'Ukraine. Washington s'engage à fournir à Kiev des systèmes perfectionnés de défense antiaérienne. Le nouveau bilan des frappes sur les villes ukrainiennes s'établit désormais à 19 morts. Une quinzaine d'explosions ont été entendues cette nuit à Zaporijjia. Des bâtiments résidentiels ont notamment été pris pour cible. En plein débat sur le projet de budget, l'Assemblée s'apprête à adopter la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Vote solennel prévu cet après-midi en première lecture. Malgré ses critiques contre un texte jugé insuffisant, le groupe Les Républicains devrait associer ses voix à celles de la majorité. Et puis ouverture du cycle de négociations sur la réforme des retraites ce matin au ministère du Travail. Premier volet consacré à l'emploi des seniors. Les représentants des syndicats et des organisations patronales seront reçus chacun leur tour pour un tête-à-tête. Parmi les pistes proposée par l'exécutif, la possibilité de cumuler indemnité chômage et emploi pour les chômeurs à partir de 55 ans. Enfin, le PSG peut faire un pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions dès ce soir en cas de victoire contre Benfica. Coup d'envoi à 21h au Parc des Princes. Match à suivre en direct dans l'émission Europe 1 Sport.
Merci beaucoup Christophe. Le temps, c'est un peu plus gris au sud qu'au nord ce matin.
Exactement. Et la frontière, elle se trouve où? Comme d'habitude, au niveau de la Loire. Donc au nord de la Loire, si vous nous écoutez en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Champagne-Ardenne ou en région parisienne, vous allez avoir droit à une journée très agréable avec un beau soleil d'automne. Au sud de la Loire, c'est un petit peu plus gris, très gris même entre les Pays de la Loire et l'Alsace. Ce matin, ça va se dégager au fil des heures et cet après-midi, on a vraiment une zone assez grise entre le sud-ouest et le centre-est en passant par l'Auvergne où là, les averses vont s'enchaîner dans l'après-midi avec même quelques coups de tonnerre sur les Pyrénées-Atlantiques. Ça reste toujours très agréable au bord de la Méditerranée. Côté température, vous allez me dire, ça baisse, il fait plus frais. Oui Dimitri, mais nous avons enfin des températures de saison, surtout dans le sud avec 24 degrés à Carcassonne, 23 à Marseille et Lyon, 22 pour Nice, 21 degrés à Aurillac et Vannes, 20 degrés à Dijon, Besançon et Bordeaux, 18 pour Paris, 17 à Lille et 16 petits degrés pour Dunkerque ou encore Saint-Brieuc.
Merci beaucoup Anissa, il est 8h34.
7h, 9h,
Europe Matin.
Les signatures Europe 1, Emmanuel Ducrot dans 3 minutes. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Du journal L'Opinion, vous allez nous parler...
de cybersécurité.
Non mais à hauteur d'humain.
Voilà, c'est ça. À hauteur de novice en informatique. Voilà, c'est Word. Très bien. Mais d'abord, Yann Moix est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour Dimitri, ça
comme
va?
Tous les mardis sur Europe 1, ça va très bien. Alors, vous vous passionnez pour cette affaire dans le monde des échecs, le champion du monde de la discipline. Il s'appelle Magnus Carlsen, il a 31 ans. Il a accusé l'Américain Hans Niemann de triche aux échecs. Alors, c'est rare quand même aux échecs d'entendre ce genre de choses. Hein.
Oui, Dimitri, je ne sais pas si vous jouez, mais vous savez que ce jeu...
Très modestement.
A la réputation, bienvenue au club, a la réputation d'être nommé le noble jeu des échecs. C'est le roi des jeux, c'est-à-dire c'est le jeu de la pureté intégrale, pureté intellectuelle, morale, comportementale, éthique. C'est-à-dire que c'est le mélange du pur esprit et de l'esprit gentleman, de la réflexion et du code de l'honneur. C'est un jeu aussi de la beauté des coups, de la beauté du geste. Alors... évidemment, quand on aime l'argent, on joue au foot ou au poker, mais rarement aux échecs. C'est un jeu en fait désintéressés. Encore que, depuis que les dotations maintenant approchent le 1 000 000 d'euros, 1 400 000 pour ce Grand Chess, le tournoi Grand Chess, la triche a l'air de quand même faire son entrée dans ce jeu.
Est-ce qu'on a la preuve de cette tricherie dont Magnus Carlsen accuse l'Américain Niemann ?
Non, la seule preuve qu'on a, c'est que Carlsen trouve ça bizarre. Alors, c'est pas une preuve extraordinaire, mais il n'a pas perdu avec les Blancs depuis 53 parties, donc ça lui a mis la puce à l'oreille. Il était aussi probable que Carlsen perde cette partie que la Tour Eiffel change de rive. Vous voyez, c'est quand même assez étrange. Donc non, on n'a pas la preuve, mais on pourrait considérer que son adversaire Niemann, qui a déjà été connu pour tricher une centaine de fois, est un peu le Lance Armstrong du jeu de 64 cases.
Cette conviction intime, c'est un peu maigre quand même comme preuve, non ?
Oui, c'est maigre, mais si vous voulez, il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent véritablement, des logiciels d'intelligence artificielle, de détecter la triche. Alors effectivement, dans la partie, on n'a pas détecté de triche.
Ça va loin quand même cette histoire. Comment on triche aux échecs ?
De mille façons, c'est-à-dire
c'est quand même la question.
Alors là, il y a des fantasmes, il y en a qui parlent de plug anal, qui envoient des pulsations. On peut aussi considérer qu'il y a des implants, des puces qui sont greffées sur la tempe, et aussi des oreillettes microscopiques. L'imagination n'a pas de borne dans la triche chez l'être humain, vous savez Dimitri.
Bon, ça va loin tout ça, mais pourquoi est-ce que c'est si important cette affaire de triche dans les échecs ? Parce que de la triche, finalement, il y en a dans toutes les disciplines.
Il y en a dans toutes les disciplines, mais... Que ça arrive aux échecs, ça veut dire quelque chose. Il y a quand même un basculement, exactement comme aujourd'hui la virtualité et la réalité sont maintenant deux options parallèles. On va considérer aux échecs que la triche est peut-être normale. C'est-à-dire que l'être humain qui va jouer devant vous dans un tournoi à la loyale ne sera pas lui-même, il ne sera pas tout seul, il ne sera pas nu. Il sera lui plus un demi, lui plus un quart. Il sera toujours augmenté. C'est-à-dire il sera muni d'une excroissance qui le rendra peut-être moins fiable, mais plus fort. Donc en fait, le joueur tout nu, c'est peut-être fini aux échecs, malheureusement. Alors, on peut s'en accommoder, Dimitri, hein, comme on l'a fait dans le domaine du sport. On sait très bien qu'il est impossible de remporter le Tour de France sans s'être dopé. C'est
sans
impossible.
Avoir son coach dans une oreillette, hein, notamment.
Exact, oui. en fait, il suffirait de changer de logiciel. Et si on oublie les joueurs et qu'on regarde juste la partie, c'est là qu'on peut considérer que le jeu d'échecs est toujours passionnant. Simplement, il faut oublier les joueurs. Est-ce que ce sont des tricheurs ou pas ? Il faut faire abstraction de ça. Il faut se concentrer sur la beauté intrinsèque de la partie. C'est elle qui devient le héros, d'une certaine manière.
Ouais, le jeu plus important que les joueurs, d'une certaine manière.
Oui, c'est effrayant, mais c'est vrai.
Ouais, j'allais vous le dire, c'est un peu effrayant tout ça.
Mais oui, mais alors, le paradoxe de ça, c'est qu'avant l'entrée de l'intelligence artificielle et l'entrée de la triche, aux échecs, qui nous fascinait, c'était la force des jeux, la beauté des coups, la puissance de l'imagination. Paradoxalement, aujourd'hui, ce qui va faire la beauté des échecs, c'est l'inverse. Ça va être les failles, les approximations, les erreurs, tout ce qui finalement va rendre ce jeu humain. D'autant plus, mon cher Dimitri, qu'aujourd'hui, on peut savoir, grâce aux ordinateurs, quel coup parfait, quel coup idéal les joueurs n'ont pas joué. Donc la beauté du jeu, ça va être d'évaluer le delta entre un coup humain joué et le coup parfait qu'il aurait dû ou pu jouer s'il n'avait pas été assisté.
Oui, allez-y, continuez.
Donc en fait, si on voulait résumer les choses, on peut dire qu'en théorie pure, les échecs n'ont jamais été aussi passionnants puisque l'intelligence artificielle permet de faire des parties comme jamais.
Ouais.
Vous savez qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet aussi de créer de l'étonnement, de créer des coups qui peuvent abattre psychologiquement un autre ordinateur, d'innover, d'avoir une sorte de virtuosité dans la gestuelle même de l'intelligence du coup.
Ouais.
C'est fini les vieux ordinateurs qui calculaient tout à l'avance de manière bête et méchante. Donc la partie psychologiquement intéressante, c'est toujours entre êtres humains, mais la partie théoriquement intéressante, ça sera désormais entre ordinateurs. Et quand on aura un joueur face à face, deux joueurs face à face, on se dira que finalement on a deux potentiels tricheurs qui s'affrontent et ça sera la propension à être malhonnête la plus imaginative qui va nous passionner. Alors oui, Dimitri, la créativité s'est déplacée, elle n'est plus seulement sur l'échiquier mais dans la réalité. Comme si les joueurs à leur tour étaient devenus les pions d'une intelligence artificielle certes, mais néanmoins supérieure. Et je voudrais rajouter un tout dernier truc. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est quand même l'intelligence humaine qui l'a créée, donc tout ça n'est peut-être pas si grave.
Merci beaucoup Yann Moix pour votre regard. Demain, c'est Gaspard Proust qui sera à votre place. Je vous souhaite une excellente semaine. Tiens, restez là.
Merci.
On va pas être très loin de l'intelligence artificielle avec vous Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Le département de Seine-Maritime a été touché par une attaque informatique. Elle a mis à genoux cette attaque de nombreux services publics, hein. Les dossiers d'aide aux personnes âgées, les subventions aux communes. Le département a dû complètement couper le réseau pour le secteur sécurisés. Et ça, malheureusement, ça arrive tous les jours.
Et oui, c'est devenu exponentiellement banal, si j'ose dire. En 2021, l'Agence nationale de sécurité des services d'information a relevé 1082 intrusions dans des systèmes informatiques, 37% de plus que l'année précédente. Et c'est sans doute la partie émergée d'un iceberg beaucoup, beaucoup plus gros. Une attaque sur trois touche des petites entreprises, un quart les collectivités territoriales. Et ça, le nombre a explosé de ces attaques-là. Un autre quart les entreprises stratégiques et puis 7% les établissements de santé. Personne, absolument personne, même pas vous, n'est à l'abri.
C'est quoi la conséquence de ces attaques, Emmanuel ?
Eh bien, si ces cyberattaques ont des finalités diverses, hein, gains financiers, espionnage, déstabilisation, sabotage, si les grandes entreprises et les secteurs stratégiques sont bien au fait du risque, les attaques sont souvent dramatiques pour les petites entreprises. Les PME, elles sont de notoriété publique très très mal préparées en France. Elles n'ont souvent pas de procédure de sauvegarde des données, pas de plan de continuité, une attaque et elles perdent tout, de l'historique des clients à la facturation, parfois même les secrets industriels, et 8 sur 10 font faillite dans l'année qui suit. En gros, ce sont des passoires.
Alors, les collectivités territoriales, maintenant, les villes, tout ça, alors elles ne font pas faillite, mais enfin, tout de même, quelles conséquences de ces attaques,
hein ? Alors, elles aussi, elles sont très, très peu entraînées. Hein. C'est la naïveté générale. En cas d'attaque, ça veut dire, comme en Seine-Maritime, des services à l'arrêt, des fuites de données, des mois de travail perdus. La communauté urbaine d'Angers, qui avait été attaquée début 2021, a mis des semaines à s'en remettre et ça lui a coûté une fortune. En septembre 2021, c'était les données de santé de 1,4 million de personnes qui ont été disséminées dans la cybernature après le piratage du système informatique de l'APHP, les hôpitaux de Paris. Et là, c'est autre chose qui est érodée, c'est un capital de confiance et c'est très grave.
Alors, les pirates sont assez difficiles à identifier généralement. Comment ils s'y prennent ?
Alors, je ne vais pas lister ici hein, toutes les techniques. Il y en a des dizaines et des dizaines. Des attaques concertées pour faire tomber les serveurs à l'hameçonnage en passant par la cyber-rançon. Mais l'histoire est presque toujours la même. La cyber-malveillance exploite, Yann, ça va vous amuser, l'erreur humaine. Par quatre biais, l'ignorance, la routine, la naïveté, la négligence. Alors ce sont ces mails douteux qui contiennent un logiciel espion et qu'on ouvre dans le doute. Des messages contrefaits dont on ne se méfie pas, des mots de passe qui traînent, des systèmes pas mis à jour, des procédures pas respectées, du porno dans les ascenseurs, que sais-je. Mais le maillon faible des organisations, c'est toujours vous. Ou c'est moi. Et comme la chaîne de production dans les entreprises s'allonge avec de plus en plus de points d'entrée numériques, eh bien, toutes les failles sont devenues hyper nombreuses.
Ah oui, puis avec le télétravail qui a explosé depuis le Covid, eh bien, les risques ne font qu'augmenter.
Ah oui, parce que là, on a multiplié le n'importe quoi. Les ordinateurs qui servent pour des usages professionnels et privés, les connexions mal sécurisées entre les travailleurs et l'entreprise, les bidouillages informatiques avec des outils qui ne sont pas vraiment prévus pour ça, la multiplication des échanges numériques de données qu'on se transmettait de vive voix auparavant et qui transitent désormais sur les réseaux, les nouvelles organisations sont truffées de failles humaines. Alors, les professionnels de la sécurité informatique ne cessent d'alerter, hein, pour l'instant avec assez peu de succès, mais nous avons tous appris les gestes barrières face au Covid. Nous devons acquérir maintenant les bases d'une hygiène informatique pour éviter les parasites et les contaminations.
L'hygiène informatique. Il faudra nous donner des cours. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Merci Yann Moix.
Merci Dimitri.
Le club de la presse Europe 1 arrive dans un instant. Cette crise des stations-service, rattache politique ou non ? On en parle avec Eugénie Bastier du Figaro et David Revaud-Dallone du Journal du Dimanche. A tout de suite.
Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
C'est la crise que le gouvernement n'avait pas vu venir, hein, concentré sur ses dossiers du moment, les retraites, l'assurance chômage, mais aussi la crise ukrainienne, celle de l'énergie. Et ben, l'exécutif n'a pas vu venir qu'un banal conflit social chez Total Energy était en train de se transformer en crise nationale d'approvisionnement en carburant. Stations-service fermées, pompes condamnées, ambulances, taxis, cars scolaires au chômage technique. Bon, vu les conséquences, on n'est clairement plus dans un conflit privé. Alors ce matin, sursaut salutaire du gouvernement par le truchement du porte-parole Olivier Véran qui nous dit ça, en gros, il est temps d'arrêter les âneries, arrêtons les bêtises. On monte d'un cran, va-t-on vers la réquisition ? C'est la question technique, hein, maintenant qui va se poser. Réquisition qui est prévue par la loi en vertu d'un texte qui date de 2003. On en parle ce matin. La question est, y a-t-il rattache politique dans cette affaire ? Bonjour Eugénie Bastier.
Bonjour Dimitri.
Essayiste, journaliste au Figaro Vox. David Revaud-Dallone est avec nous aussi, chef du service politique du journal du Dimanche. Bonjour David.
Bonjour Dimitri.
Alors, rattache politique ou pas dans cette affaire ?
Bah, je crois qu'effectivement,
l'image peut-être.
Ça ressemble un peu à ce qui s'était passé avec l'affaire des Gilets jaunes et la fameuse taxe carbone, encore une fois, sur le sujet explosif, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, de l'essence. Effectivement,
c'est le seul point commun avec les Gilets jaunes, David. Moi, j'ai lu ça, je ne vois pas le rapport avec les Gilets jaunes.
Non, mais si, parce qu'il y a eu effectivement un défaut d'anticipation, au sens que l'extrême sensibilité de l'opinion sur ces sujets a été, je crois, mal évaluée par le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, prix de l'essence, c'est-à-dire difficulté à se déplacer, difficulté à faire le plein, difficulté pour tous ceux qui vont au travail, mais aussi qui travaillent grâce au carburant, sont désormais dans une impossibilité. Donc, je pense qu'il y a eu quelques jours de retard à l'allumage, si on peut dire, du gouvernement. Aujourd'hui,
mais
on
comment
voit
c'est possible ? Pardonnez-moi, David, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le sujet essence, par définition, si on a un peu de flair politique, on se dit, oula, c'est quand même ultra sensible.
Surtout avec ce qui s'est passé pendant le précédent quinquennat.
Je pense ça fait 15 jours qu'ils sont en grève chez Total Energy.
Je pense qu'une fois de plus, le président l'a dit hier, président Macron l'a dit en visite en Mayenne, il a dit oui, le président n'a pas à régler un problème d'ordre privé entre une société et ses salariés et ses syndicats. Or, précisément, je pense que là, justement, le politique aurait dû mettre son nez dans cette affaire un petit peu plus tôt, puisqu'il y avait ce problème extrêmement sensible du point de vue de l'opinion.
Alors, on l'a dit, le privé, c'est politique, Eugénie Bastier. Là, on est quand même dans un cas de figure étonnant. La liberté de circuler, faire le plein pour aller travailler, c'est évidemment un sujet politique. Oui. Moi, la question, c'est un vrai mystère. Comment se fait-il que le gouvernement n'ait pas vu venir le coup ?
Parce que je pense que c'est un gouvernement qui est assez déconnecté du quotidien des Français. Et moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est vrai que c'est comment la pompe à essence est devenue vraiment un objet politique à part entière. On l'avait vu pendant la présidentielle où Marine Le Pen allait dans les stations-service serrer des mains. On peut le voir aux États-Unis même où la popularité de Biden est indexée sur le prix à la pompe. Et d'ailleurs, il peut être en difficulté parce qu'aujourd'hui, l'essence est très très chère aux États-Unis. Pour les Américains, c'est aussi essentiel. Et donc, on voit bien que dans nos démocraties consumériste occidental, c'est devenu finalement un critère politique par excellence, le prix de l'essence.
Et mais c'est que des gens ne peuvent pas aller travailler.
Bien sûr, oui.
En Essonne, ce matin, vous n'avez plus de car.
Je pense que le gouvernement, en tout cas, ça pourrait être une opportunité même pour le gouvernement de montrer finalement une forme d'autorité, de se saisir de cette crise pour montrer que l'État est encore là, qu'il peut prendre des décisions, parfois des décisions énergiques. Et je pense qu'Emmanuel Macron ne courrait aucun risque à décider d'une réquisition. Les Français seraient d'accord avec lui. On voit bien qu'une partie de l'extrême-gauche, NUPES, essaie de souffler sur les braises parce qu'elle est dans le regret de n'avoir jamais pu saisir l'opportunité des Gilets jaunes et veut en permanence créer des Gilets jaunes pour une crise type Gilets jaunes dont elle pourrait s'emparer. Mais je pense qu'Emmanuel Macron ne prendrait aucun risque à saisir cette opportunité.
Là, il y a plus une demande d'ordre qui s'exprime à la station-service qu'une demande de chaos ou de rébellion d'une certaine manière, David Revaud-Allonne.
Oui, mais on voit qu'il y a un peu plus de réticence qu'en 2010, souvenez-vous, quand le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait assez fermement et directement appliqué l'emploi de la force publique et les réquisitions.
C'était la réforme des retraites.
C'était la réforme des retraites.
La CGT Chimie,
voilà, absolument.
S'était mobilisée pour bloquer
une partie des mêmes acteurs d'ailleurs qu'aujourd'hui. Sauf que là, on en revient aussi. C'est vrai qu'il y a eu sans doute un défaut d'appréciation de l'éruptivité du pays et peut-être une petite déconnexion. Mais il y a aussi la vision libérale du président qui, encore une fois, nous explique que c'est un problème privé et qu'avant que l'État mette son nez dans cette affaire, là, il faut vraiment que la situation devienne grave.
Il y a autre chose, David, pardonnez-moi, je me permets, parce que dans la lecture des événements, il y a quelque chose qui me perturbe quand même souverainement, c'est qu'on dit qu'il y a une éruptivité du pays. Je pense que les gens se disent surtout, le prix du gaz, c'est compliqué, on n'est pas sûr d'en avoir, on va le payer une fortune. L'essence, a priori, il n'y avait pas de problème, sauf que là, en fait, on en a parce que c'est un conflit syndical, un truc, en plus, un grand classique de la vie vie sociale française. C'est plutôt ça, finalement. C'est l'accumulation des frictions.
Accumulation des frictions, d'autant plus que la question de l'essence, ça a été un des sujets de la campagne présidentielle. Ça fait plusieurs semaines que le gouvernement a mis en place un dispositif. Il y a eu cette remise, cette ristourne à la pompe, à la fois du fait de l'aide budgétaire gouvernementale et aussi du choix de Total de faire cette ristourne de 30 centimes. Donc, ce n'était pas du tout un sujet qui était, était inattendu.
Il y a aussi quelque chose qui me surprend, David, pardonnez-moi, je vous interromps, c'est ce manque de retour d'expérience du gouvernement sur lui-même, puisque quand on regarde les chiffres de la consommation de carburant, ça c'est très drôle, c'est l'opinion qui raconte ça. Quand Jean Castex annonce en mars la ristourne de carburant qui doit entrer en vigueur au 1er avril, boum, la consommation de carburant s'effondre de 25%. Le 1er avril, elle remonte à plus 50%. Donc on voit bien qu'il y a des effets d'anticipation.
Des effets d'aubaine.
Voilà. Absolument. Et donc, le gouvernement n'aurait-il dû pas se douter qu'en prononçant le mot de pénurie, même pour dire qu'il n'y avait pas de pénurie, le simple fait de prononcer le mot allait déclencher cette espèce de ruée à la pompe qui amplifie le problème de pénurie.
Justement, ils ont dit qu'il n'y a pas de pénurie parce qu'ils ne voulaient pas provoquer ça. Et en fait, effectivement, rien que de prononcer le nom, on est dans des espèces de comportements mimétiques et des effets de panique qui sont par définition très difficiles à contrôler pour les politiques. Mais c'est vrai qu'on peut observer une certaine répulsion de la part du gouvernement, de la part du macronisme à employer les outils de la force régalienne pour régler un conflit. Il y a toujours cette espérance, finalement, soit que ça se réglera, au sein de l'entreprise, par le privé, une espèce de naïveté libérale, je pense, et une espèce de, voilà, on ne veut pas y aller par la force, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une répulsion de la part du macronisme à employer la force pour régler les conflits.
Alors, oui. Encore une fois, dans le macronisme, on est toujours dans le « en même temps », et donc on voit, même sur ce sujet-là, au sein de l'exécutif, au sein du gouvernement, il y a du « en même temps », et il y a des gens, évidemment le ministre de l'Intérieur de par sa fonction, mais aussi parce qu'il est intéressé évidemment à la situation politique dans les Hauts-de-France et à la progression de Marine Le Pen dans ce territoire. Lui, il est évidemment plutôt pour l'envoi, l'utilisation.
Il y a une semaine, il disait réquisition
et emploi de la force publique. Je crois que, effectivement, hier soir, Elisabeth Borne s'est un petit peu réveillée en revenant d'Algérie, en organisant cette réunion nocturne en urgence à Matignon. On laisse, non pas sa chance au produit, mais sa chance aux négociations aujourd'hui, puisqu'on voit que c'est engagé à la fois chez Esso et chez Total, mais à partir de demain, si les blocages continuent, on peut raisonnablement penser que le gouvernement n'aura d'autre option que d'utiliser le bâton et la fermeté, et donc d'utiliser la force publique.
Dans la liste des paradoxes de cette crise, c'est que, vous voyez, le prix du carburant a bondi de 10 centimes, non pas parce que le baril coûte plus cher, tout simplement parce qu'on est acheté très rapidement à Rotterdam du pétrole très cher. On a importé énormément de diesel russe ces derniers jours. C'est quand même le paradoxe ultime, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut sanctionner la Russie. Il y a aussi quelque chose qui me frappe, Jenny Bastier, vous dites, peut-être réflexe libéral, réticence à employer la force et le 49-3 pour le budget. C'est pas le recours à la force ?
C'est vrai, là, il semble que le gouvernement n'ait aucun problème à l'utiliser. Je trouve d'ailleurs que c'est plutôt juste. C'est un outil qui est permis par notre Constitution. Si le gouvernement veut l'employer pour faire avancer les choses, pourquoi pas ? Il faut arrêter de s'offusquer en permanence. Ça fait partie des outils prévus par la Ve République, parce qu'on est dans un parlementarisme rationalisé. Et pourquoi pas l'utiliser ? Après, la question, c'est... C'est du bien fondé ou pas des réformes qui vont passer, ça on peut en discuter, mais que le gouvernement emploie ce moyen pour les faire passer, cela ne me choque pas.
Oui, parce que effectivement, les oppositions NUPES et RN en tête vont s'offusquer. Il va y avoir un grand théâtre, pour ne pas dire un grand spectacle de guignol cette semaine à l'Assemblée nationale, avec un gouvernement qui, d'une part, attend que les oppositions rendent l'utilisation du 49-3 par leur blocage inévitable, et d'autre part, les oppositions qui vont hurler au scandale et au déni de démocratie. Évidemment, c'est un outil institutionnel prévu par la Constitution. Je rappelle que sous Michel Rocard, il y a eu 28 utilisations dans une situation à peu près similaire, où la majorité était même un petit peu moins relative. C'est la différence avec l'utilisation, pour faire le lien avec le sujet précédent, de l'emploi de la force publique. En France, il y a quand même le droit de grève. Alors certes, il y a des blocages qui sont inadmissibles, il y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler, des gens qui ne peuvent pas travailler, mais il reste quand même l'existence de ce droit de grève, et donc c'est ce qui rend plus compliqué
l'utilisation de la force publique. Mais la réquisition est aussi prévue par la loi sous décision du préfet en cas d'urgence, et il me semble qu'on va peut-être en arriver à ce cas d'urgence et que ça pourrait être justifié, c'est aussi encadré par la loi, mais
Bruno Le Maire, ministre de l'économie, vient de le dire à l'instant, il y aura réquisition s'il y a impasse des négociations actuellement entre Total et la CGT. Tiens, juste pour l'info, c'est dans l'opinion ce matin aussi que j'ai déjà cité, en fait il y a un conflit dans le conflit, c'est-à-dire que à la CGT, la Fédération de la Chimie qui est à la manœuvre de cette grève chez Total est très opposée à Philippe Martinez, l'actuel patron de la CGT, qui passe la main en mars 2023. Philippe Martinez pousse en avant une candidature, une certaine Marie Buisson, qui incarne la tendance écolo de la CGT, à laquelle les fédérations à tradition très industrielle sont très 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 opposées. Voilà aussi ce qui se joue en toile de fond. Merci à tous les deux, c'était passionnant. David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche, Eugénie Bastier du Figaro. Mais qui est-il ? Mais que fait-il là ? Mais c'est Louis.
Bonjour Dimitri, vous allez bien ?
Que faites-vous là, mon cher Louis ?
Eh bien, en préparation du journal de 9h.
Oui. Louis de Raguenel, dans un instant, vous retrouverez Philippe Vandel pour Culture Média. Le programme arrive dans un instant, 8h57.